discuter. Oui, okay. Bon, bien, bonjour à tous, rebonjour. On va attaquer donc la table ronde de cet après-midi qui est consacrée aux médicaments, évidemment, hein, entre défiance et espoir, avec trois intervenants de grande qualité. Cette table ronde, en fait, s'inscrit dans le contexte de la mondialisation que l'on vit tous à tous les niveaux de notre quotidien, on va dire, et en particulier à l'évolution des connaissances. Et des connaissances dans de nombreux domaines, finalement, puisque des connaissances dans le domaine de l'information avec Internet et tout ce qui va avec, et qui évidemment génère tous les achats par Internet que va nous évoquer Daniel Chevalier, qui est pharmacien à l'ARS et qui va en particulier nous parler des problèmes de santé publique associés et des contrefaçons concernant ces achats sur Internet. J'évoquais l'évolution des connaissances, c'est aussi les transferts finalement de production dans le monde, une répartition qui a changé, la genèse des génériques, là il y a maintenant combien de temps, ça fait une vingtaine d'années, hein, je dirais. Et donc, c'est Madame Joëlle Fauché-Grassin, qui est chef du service de la pharmacie centrale du CHU de Poitiers, qui est aussi coordinateur, je vais le dire, de l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et l'innovation thérapeutique en Poitou-Charentes, et qui va nous parler de ces génériques. Et je crois qu'elle nous a préparé une présentation ludique et interactive, donc on a hâte de voir ça. Et enfin, je parlais de l'évolution des connaissances, et en particulier les connaissances biologiques, médicales, les connaissances des techniques en biologie moléculaire, en génie génétique, ont aussi amené des nouveaux médicaments qui ont été évoqués ce matin, ces protéines que l'on obtient dans des systèmes in vitro, hein, des bactéries, des cellules. Hein, on fait des OGM pour produire ces nouvelles molécules, et ces molécules coûtent très cher. Et sont extrêmement efficaces, qu'on a évoqué ce matin aussi. Et c'est donc Philippe Beau, qui est médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie et spécialiste des maladies inflammatoires du chronique de l'intestin, qui donc est amené à être un utilisateur, un prescripteur important de ces nouvelles molécules, donc qui abordera ces nouvelles molécules à la fois d'un point de vue médical et j'imagine économique également. Enfin, pour introduire cette table ronde, eh bien, nous avons le plaisir d'avoir Denis Richard, qui est lui pharmacien chef de service de l'hôpital Henri Laborie, et qui va essayer de rentrer dans le titre qui lui a été imposé. C'est toujours un challenge, prescrire un médicament. Pourquoi prescrire un médicament? Un petit mot dans ce contexte de la vulgarisation scientifique qui est faite ici. Denis Richard, eh bien, on le connaissait, en tout cas je le connaissais par ses publications dans les que sais-je qu'il a pu faire sur les opiacés qui sont là-haut. Ah ben c'est formidable, tu vois. J'espère que tu vas en vendre quelques-uns. Voilà. C'est une plaisanterie. D'accord, très bien. Et qui a fait aussi un dictionnaire des drogues et dépendances chez Larousse, entre autres, puisque j'ai compris que c'était un écrivain insatiable. Voilà. Bon, merci. Je te laisse la parole.
Merci. Merci. Bien, écoutez, je suis ravi de me retrouver parmi vous cet après-midi pour introduire la rencontre très riche portant sur le médicament, bien sûr, qui va tous nous mobiliser cet après-midi avec un sujet peut-être un petit peu délicat, peut-être même parfois un petit peu abstrait. Pourquoi prescrire un médicament? Parce qu'effectivement, le médicament que vous avez étudié ce matin, puisque vous avez parcouru tout l'ensemble du cycle de vie du médicament, qui part de la recherche, de la conception, de la formalisation en quelque sorte de cet objet fini qui est le médicament qui est administré aux patients, ce médicament doit donc être prescrit. Il y a des exceptions, j'en conviens, puisque dans certains cas, le patient peut se procurer le médicament sans prescription. Mais nous allons voir que même lorsqu'il n'y a pas de prescription médicale, il y a quand même quelque part une idée de prescription derrière le médicament. Et cette notion de pourquoi prescrire un médicament est quelque chose de très fort, très fortement ancré dans les sociétés. Donc nous allons assez rapidement parcourir ces différents aspects, et puis je serai ravi bien sûr de pouvoir répondre à vos questions. Alors pourquoi prescrire un médicament ? Bah déjà, qu'est-ce que ça signifie prescrire ? On peut se poser la question. Et quand on fait une petite recherche étymologique, on découvre sans peine que cette notion de prescription, ce verbe prescrire, dérive d'un verbe latin, prescibare, peu importe, qui signifie commander, mettre en tête, mettre dans la tête, imposer. C'est très proche en fait du verbe ordonner, mettre en ordre, arranger, poser un objet à côté de l'autre, faire une somme. Les synonymes, les expressions sont nombreuses, mais toutes tournent autour de cette même idée. Et il n'est donc pas inutile de souligner que ceci mène à une synonymie que vous connaissez bien, celle de la prescription médicale et celle de l'ordonnance. La prescription, c'est ce qui ordonne. C'est un ordre qui est donné au patient, qu'il est censé suivre, c'est la notion d'observance. Et puis c'est aussi un ordre qui est remis dans le désordre du patient. Précisément, cette prescription a pour objet de remettre en ordre ce qui a été désordonné par la maladie. Donc, la prescription, c'est un petit peu ce qui va réparer le chaos, le désordre. Alors évidemment, cette notion est un petit peu abstraite, mais vous allez voir qu'on peut l'étendre à différentes conceptions et qu'elle peut mener à véritablement bien comprendre ce qui se passe dans la tête du patient lorsqu'il est muni de ce sésame vers la guérison qui est la prescription. Alors quand je dis guérison, bien évidemment, ce n'est pas forcément l'aspect totalement curatif. Ça peut être l'amendement des symptômes d'une maladie. Ça peut être un certain nombre de notions que l'on va voir. Mais idéalement, le médicament, c'est ce qui guérit, bien sûr. Du moins, c'est ce que l'on a en tête. Quelle fonction peut avoir cette prescription du médicament ? Alors la première, je l'ai mise là, ce n'est pas forcément la plus importante, quoique, concerne le médecin. Parce que le médicament, c'est ce qui, parmi d'autres opérations, et nous sommes réunis ici pour parler du médicament, donc je ne vais pas parler de l'acte chirurgical ou autre, il n'y a pas que la prescription du médicament, bien sûr. Il peut y avoir des prescriptions d'hygiène de vie, par exemple. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être prescrites ou opérées par le médecin. Mais le médicament, par sa banalité dans notre société, par les interrogations qu'il nous pose, nous interroge tout particulièrement en ce que, précisément, il représente le signe, le symbole tangible que l'on peut toucher, qui existe, du pouvoir de guérir. Donc, prescrire, cette ordonnance, cette prescription, donne précisément à voir le pouvoir d'intervention du médecin sur le patient et sur la maladie. Et d'ailleurs, vous le savez, même si cette notion évolue un petit peu à l'heure actuelle, nombre de patients sont déçus, voire mis dans le doute, lorsqu'au sortir d'une consultation médicale, le médecin n'a pas sanctionné le diagnostic qu'il a porté par la rédaction d'une ordonnance. Alors maintenant, c'est peut-être un petit peu moins vrai, bien sûr, nous y reviendrons avec les connaissances nouvelles qu'ont les patients. C'est aussi peut-être moins symbolique parce que le médecin va se mettre au clavier de son ordinateur, il va éditer une ordonnance, on ne voit pas vraiment l'acte, il est là, etc. Tandis que dans le temps, je fais partie de cette génération qui a bien connu cela, chez le médecin, il ouvrait son stylo plume, il prenait son paquet d'ordonnances et il écrivait des choses, d'ailleurs lisible, bien sûr, ce qui rajoutait au mystère et donc au pouvoir. Quelques signes cabalistiques que même le pharmacien avait souvent des difficultés à interpréter. C'était un langage d'initié pour un initié qui, en tout cas, n'était pas le patient et qui ne pouvait précisément qu'être le témoin passif de l'ordonnance et du mystère qui allait s'opérer en lui. Objet tangible, le médicament est également l'incarnation de la technologie moderne. Alors ça, vous l'avez évoqué ce matin. On est loin de l'écorce de saule des Romains, etc., lorsque l'on fait du génie génétique, lorsque l'on s'oriente vers les traitements personnalisés, les traitements à la carte qui sont développés à l'heure actuelle dans un certain nombre de pathologies. Et au total, cet objet que vous avez évoqué ce matin est donc le médiateur d'une double relation, d'une part entre l'industrie, le producteur du médicament qui fabrique des objets, médicaments, et le consommateur qui est le client qui va les acheter, peu ou prou, ou que l'on va acheter pour lui, Et puis, il est aussi le médiateur, de façon plus resserrée, entre le professionnel qui sait, le médecin, et le patient, c'est-à-dire le consommateur malade, l'usager du médicament, celui qui va en user. Donc, nanti de cette réflexion, on peut se poser la question de savoir ce que l'on va soigner avec le médicament et quel besoin satisfait la prescription. Car effectivement, lorsque l'on prescrit des placebos, par exemple, on peut se demander quel est le sens d'une prescription où l'on prescrit en fait rien, pharmacologiquement parlant. Sauf que ce rien est actif. Donc, cela souligne que véritablement la prescription a une valeur tout autre que la simple valeur pharmacologique. Exerçant en hôpital psychiatrique, je suis bien placé pour vous donner des exemples très concrets de cette valeur du médicament sur laquelle nous allons revenir. Et de façon à ne pas risquer d'oublier un exemple concret, je vous en livre un qui me vient à l'esprit, que je cite toujours lorsque j'ai des réunions avec les internes dans l'hôpital ou autre. Il y a quelques années maintenant, je suis appelé vers 22h, 23h, je ne sais plus, mais tard, pour un patient qui avait absolument besoin d'un hypnotique que nous n'avions pas en stock à la pharmacie. Les médicaments sont tous à peu près équivalents, donc on en a peu. Le patient en voulait un autre. Donc je réponds que l'infirmière faisait avec ce qu'elle avait dans le service et que je ne me déplaçais pas. Une demi-heure plus tard, nouvel appel de l'infirmière. Le patient était très agité, très vif dans le service. Il voulait absolument son traitement et pas un autre. Donc, sachant que nous avions une boîte d'échantillons qui traînait dans le service, malgré tout, je me décide à me déplacer. Je fais 12 km pour aller à l'hôpital, de façon à ce que le patient ne mette pas le désordre, le chaos dans toute l'unité. Et Dieu seul sait si parfois certains de nos patients s'y entendent à remuer les autres patients, les infirmières, pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Je prends le médicament, j'arrive dans le service avec mon hypnotique. Je le donne à l'infirmière qui se précipite dans la chambre du patient, qu'effectivement, j'entendais un petit peu agité. Elle lui donne son produit pour dormir, tout se calme, elle revient. Nous discutons un petit peu, et puis, comme j'étais là, elle me propose de prendre le café avec l'équipe de soignants qui était présent à cette heure tardive. Donc voilà, un petit café, on discute. Tout d'un coup, de nouveau, des appels émanant de la chambre du patient. Le patient qui redemandait de nouveau la suite de son traitement, tout cela était un petit peu confus. L'infirmière se précipite et revient totalement blême, parce que le patient voulait sa pomme. Et oui, parce qu'il avait l'habitude de prendre une pomme après le médicament pour dormir, et pour lui, le médicament n'était pas actif s'il ne prenait pas la pomme. Donc, il voulait la pomme qui donnait l'efficacité à l'hypnotique, qui n'était pas n'importe lequel, qui était celui dont il avait l'habitude. Vous voyez donc tout l'enchaînement de ces séquences. Bon, pour ma part, je m'étais sorti de l'affaire, j'avais fourni le médicament, j'ai renvoyé vers les services économiques pour la pomme. Mais vous voyez donc quelle est la valeur de ceci. Donc, tout est une question d'équilibre entre le patient et sa maladie, et entre le prescripteur et le médicament. Et cette rencontre se situe précisément au niveau de la prescription, de l'ordonnance du médicament. Alors, quelle fonction au médicament ? J'ai repris là quelques travaux assez classiques dans ce domaine qui remontent maintenant aux années 1960. Ne vous laissez pas aller à la difficulté des termes. Je les ai mis parce qu'ils sont utilisés par les auteurs, mais vous allez voir, ce sont des notions très simples. Le médicament a deux grandes fonctions, autres que pharmacologiques, une fonction métonymique, une fonction métaphorique. Je vous explique. La fonction métonymique, c'est très simplement l'incorporation dans le médicament de l'expertise du médecin et de sa capacité à soigner, qui est tout entière contenue dans le médicament qui est prescrit. Tout se passe comme si le savoir médical passait par la plume et rentrait dans le médicament au travers de l'écriture du médecin. Ce n'est pas propre à notre société. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Patrick Lemoine, Le mystère du placebo, paru il y a 10 ou 12 ans aux éditions Odile Jacob, où il expliquait comment dans une société Maasai, en Afrique, un médecin européen avait été amené à prescrire des médicaments. Il avait emmené avec lui les médicaments. Donc il arrive avec ses caisses de médicaments, il commence à soigner, il fait des prescriptions de médicaments. Et en fait, les Maasai prennent les médicaments, mais prennent également l'ordonnance, roulent l'ordonnance et mangent l'ordonnance avec le médicament. Parce que pour eux, le pouvoir médical, c'est ce qui a été écrit, et ce n'est pas le médicament. Donc il faut que l'un aille avec l'autre pour que le médicament devienne actif. Dans d'autres sociétés, effectivement, d'une façon un petit peu plus crue, il fallait que le médecin, enfin on attendait du médecin qu'il crache sur le médicament pour insuffler son pouvoir au médicament. Donc vous voyez, on est loin de la présentation sous blister, etc. Parce que le blister, dans ce cas, évidemment, protège de tout, y compris de l'efficacité du médicament. Voilà, donc le médicament incorpore le pouvoir du médecin et il symbolise donc le savoir médical en lui-même. Il incorpore le sachant du médecin, le médecin qui sait. Et quand on pousse à l'extrême, le médicament devient lui-même sachant. C'est-à-dire il a en lui-même tout le pouvoir médical et il peut être pris en lieu et place du médecin. C'est effectivement le principe et le mystère de l'automédication. La personne n'a pas besoin du médecin pour prendre un paracétamol lorsqu'elle a mal à la tête. Alors c'est très bien dans ce cas, ça peut être très nettement plus délicat dans d'autres cas, quand on prend d'autres types de médicaments moins bien tolérés ou qu'on les prend à mauvais escient au regard de d'autres prescriptions, du terrain particulier, de pathologies dont on peut souffrir. Mais dans ce cas-là, on estime dans l'inconscient que le médicament contient tout le pouvoir médical et va soigner par sa seule prise. On s'affranchit donc de ce pouvoir qui est contenu dans le médicament. Quant à la fonction métaphorique, elle fait plus directement écho à la maladie. En prescrivant un médicament, le médecin donne un statut au patient. C'est lui dire « vous êtes vraiment malade, puisque vous avez un médicament, et que le médicament, c'est ce qui traite les symptômes d'une maladie ». Donc le patient est très content, parce qu'il a son ordonnance, il a son médicament, et lorsqu'il sort du pharmacien, il y a une véritable reconnaissance de son état. On a pris en compte ma maladie. Et ça, c'est très important, notamment dans le domaine où je travaille, celui des médicaments psychotropes, actifs sur les maladies mentales, parce qu'elles ne se voient pas forcément. Donc le statut pour certains patients, le statut de malade est acquis au travers de la prescription et du médicament. Et il n'est qu'à discuter avec des patients de l'hôpital que je rencontre, que je connais. Ils ramènent tout au médicament comme symbole de leur maladie et comme concrétisation de leur état de maladie. Je suis anxieux. D'ailleurs, le médecin m'a donné des anxiolytiques. Je suis déprimé. La preuve, c'est que j'ai des antidépresseurs. Je suis anxiodépressif. J'ai des anxiolytiques et des antidépresseurs. Et les patients connaissent évidemment très bien tout ceci. Donc ce médicament, à côté de cela, incarne, comme je vous l'avais dit, un objet qui soulage, qui guérit, qui est une image de la technologie moderne. C'est tout ce qui concerne le génie génétique ou les traitements personnalisés. Nous en avons dit un mot, vous l'avez largement vu ce matin. Je l'ai également dit, c'est la reconnaissance et la preuve de l'état de maladie. Alors j'oubliais, je vois là mon texte, hein, je ne regardais pas tout à l'heure, il y a le problème de la preuve par la notice du médicament. Parce que quand on a le médicament, qu'on lit la notice, on découvre des choses sur cette notice qui n'est pas si compréhensible que cela. Il y a beaucoup d'études qui montrent que les patients les comprennent mal. Des études plus récentes qui montrent que les médecins ne les comprennent pas forcément toujours comme il faudrait. Ou en tout cas, ont du mal parfois à l'expliquer à leurs patients avec les bons termes. Bon, enfin bref. Et puis, il y a tout ce qui est à côté, Internet maintenant. Il suffit de taper sur un clavier, on trouve toute une foule de renseignements, plus ou moins précis, souvent anxiogènes par eux-mêmes. Et puis, il y a le Vidal pour le particulier maintenant, le dictionnaire Vidal qui était la Bible du médecin, la Bible du toxicomane d'ailleurs aussi, est devenu maintenant la Bible de tout le monde, puisqu'il y a un Vidal pour particulier que l'on peut acheter, on le voit sur Internet, etc. Donc tout le monde peut jouer son petit médecin et tout le monde peut, comme cela, être bien convaincu que le médicament prouve que l'on est malade. Exemple, on a des symptômes faibles, on a un médicament donné. Par exemple, une colopathie fonctionnelle, des douleurs intestinales, on a un médicament pour les douleurs intestinales, on va rechercher sur un forum des gens qui ont ce médicament et on s'aperçoit que certains en ont, mais pour des douleurs qu'ils décrivent comme absolument infernales, etc. Donc du coup, on est encore plus persuadé qu'on a sûrement quelque chose de bien plus alarmant à l'image de ce patient. Et si on n'avait pas pris le médicament, inéluctablement, on aurait évolué vers cet état. Donc vous voyez, le médicament vient en contrepoint de tous ces aspects. Précisément parce que c'est un objet magique. Il va maîtriser la maladie en agissant sur ses signes, sur ses symptômes, et il peut ainsi donner l'illusion d'avoir un pouvoir sur la condition de mortel. Alors ça nous renvoie à plein d'exemples dans l'histoire. Évidemment, maintenant, on voit les choses avec peut-être plus d'objectivité, mais souvenez-vous Louis XI, par exemple, qui faisait tremper des louis d'or dans un verre pour boire l'eau parce que l'or étant inaltérable, il pensait devenir ainsi inaltérable. Donc il gagnait aussi, il prétendait gagner un pouvoir sur sa condition de mortel. On peut évoquer le Sargénor comme médicament, l'or des laboratoires Sargé. Vous voyez, le nom des médicaments influe beaucoup. Leur couleur aussi, nous pourrions passer toute une heure à évoquer tout ce qui est lié à la couleur et à la présentation des médicaments. Et précisément, pour en dire juste un mot, il y a des notions très importantes. Le plan de prise du médicament, par exemple, qui va créer dans la durée une répétition de la prise qui va baliser l'univers temporel du patient avec une prise par jour ou trois prises par jour. Donc, il y a un schéma temporel qui est pour certains patients, certains le négligent, mais pour d'autres, c'est à la minute près. C'est quelque chose d'extraordinairement important qui séquence véritablement leur existence. Vous avez la diversité des présentations du médicament. Précisément, un comprimé pris par voie orale n'a pas du tout la même valeur qu'une ampoule que l'on va casser devant des gens d'ailleurs. Le comprimé, on le prend discrètement. L'ampoule, on peut la casser. Ça peut être stigmatisant, mais aussi c'est valorisant. On a besoin d'un fortifiant, on casse une ampoule, on est au travail, c'est midi, on est à la cantine. Les gens vont dire, tu es malade, tu as quelque chose. Donc on embraye là-dessus. On a effectivement quelque chose puisque le médecin m'a prescrit un tonifiant, un fortifiant. C'est que j'étais moins fort, que j'étais malade. Et chez nous, en psychiatrie, on a tout le rôle du nursing. Au début, j'ai été un peu long à comprendre pourquoi on passait parfois des antidépresseurs en perfusion, alors qu'en fait, ça n'a aucun intérêt au plan pharmacologique qu'on peut donner de la voie orale. Mais cette perfusion qui coule a une valeur évidemment rassurante par elle-même. Quand on y rajoute en plus un produit, peu importe son nom, qui colore tout ça en jaune bien doré, c'est encore beaucoup plus fort dans l'esprit du patient. Donc, vous voyez, il y a cette notion du soin que l'on applique. Donc le patient, au milieu de tout ça, apprend, fait l'exercice du symptôme et de sa domination et apprend aussi à dominer peu à peu son sentiment d'impuissance. Le médecin, le médicament, lui donne une sorte de puissance sur la maladie, donc une puissance sur la vie et sur la mort. Et par là même aussi, au travers du nursing et de ce que donne le médicament, certains auteurs soulignent combien il devient support d'une activité qui satisfait un besoin de régression, c'est-à-dire un besoin de soins, de nursing. Donc le médicament, vous voyez, largement au-delà de son aspect pharmacologique, a une valeur véritablement magique en lui-même dans le soin. Que vous voyez ici résumé, il y a la pharmacologie que nous connaissons, voilà, qui est l'action du médicament, mais vous avez d'autres valeurs. Et le placebo, précisément, agit par la valeur métonymique et la valeur métaphorique. Alors, il y a d'autres des thèses très intéressantes sur le fonctionnement du placebo, j'en dis juste un mot. En fait, le soin administré à l'homme, mais aussi à l'animal, ou au bébé, au nourrisson, qui ne sait pas que c'est un placebo, va induire un regard porté sur l'autre, sur celui qui soigne, tel que cela peut modifier la production de certains composés chimiques dans l'organisme qui, en eux-mêmes, concourent aux soins. Donc, il y a là tout un regard qui est sûrement insuffisamment développé sur le placebo. Mais il est intéressant de souligner que le placebo peut soigner a priori. Enfin, on a des exemples de soins de n'importe quelle maladie par le placebo. Hein, des maladies neurologiques, des maladies dans tous les domaines. Évidemment, ça marche plus ou moins bien, mais quand on recherche dans les publications, on retrouve toujours des exemples. Ce qui marche le mieux, c'est la douleur, hein, bien sûr. Et le médicament, nous le retrouvons donc, comme l'évoquait un médecin il y a plus de 40 ans, comme l'acteur muet, mais autour duquel tout tourne, comme le crâne du bouffon Yorick sur lequel méditait Hamlet. Et c'est ça, nous sommes tous à regarder le médicament. Et nous sommes réunis au travers de ces journées, précisément pour regarder cet objet autour duquel tous nous tournons, professionnellement, bien sûr, pour un bon nombre d'entre nous, d'ailleurs, d'une façon ou d'une autre. C'est véritablement au centre. Alors évidemment, le médicament, c'est le médecin, c'est le pharmacien, c'est aussi la représentation sociale et ce qu'en pensent les patients. Et je me suis dit que ce serait peut-être bien d'évoquer quelques termes que l'on retrouve lorsque l'on interroge des patients sur ce que représente le médicament. Pour beaucoup, le médicament devient vital. Ils ont la notion que s'ils arrêtent, ils vont mourir. Ce qui est vrai pour un certain nombre de traitements, qui n'est pas forcément vrai non plus pour les traitements. Mais cette notion de lien entre la force vitale et le médicament est très prégnante. On la retrouve ancrée dans les sociétés, même lointaines, même dans les temps très anciens, bien sûr. Ensuite, il y a la notion de médicament vrai et de médicament faux. Or, c'est intéressant, puisque dans la suite de l'après-midi, précisément, seront évoqués les médicaments faux, les falsifications, mais pour certains patients, au travers des études sociologiques, le médicament faux, c'est celui qui est disponible sans ordonnance, même s'il agit. Le vrai médicament, c'est celui que prescrit le médecin. L'autre, ça s'appelle un médicament, mais ce n'est pas un vrai médicament, précisément, parce qu'il n'est pas emplis de cette puissance médicale, du sachant. Ensuite, il y a les médicaments facultatifs. Alors ça, c'est bien parce que le patient le vit comme lui laissant possibilité de l'utiliser comme il l'entend. Or, chez nous, en psy, ça a un écho particulier, c'est la goutte. Les solutés buvables avec compte-gouttes. On dit aux patients entre 10 et 13 gouttes, selon votre état. En fait, ils en prennent toujours 10 ou toujours 13, ça ne changerait rien. Mais comme ça, selon son état subjectif, il va rajouter une goutte en plus ou en retirer une, et c'est ce qui fait toute la force du traitement, parce que le patient devient son propre guide. Il y a la non-efficacité qui est vécue comme effet secondaire. Quand on pose la question des patients, vous avez des effets indésirables, oui, mon médicament n'est pas actif. Ben ça, c'est une non-efficacité, c'est évidemment pas un effet secondaire du médicament. Mais ils attendent que l'efficacité soit précisément l'effet principal et l'effet secondaire, et donc le fait qu'il ne soit pas efficace, mis en regard. Et puis plus beau encore, la iatrogénie, c'est-à-dire les effets indésirables vécus comme bénéfiques. Ça, on aimerait bien parfois les entendre plus souvent, ou surtout l'industrie. Alors un exemple, c'est le patient, ça je l'ai eu de l'hôpital notamment, il a la bouche sèche, mais il ne veut pas qu'on lui donne de traitement spécifique, parce que comme ça, il va boire plus, et puis ce sera bon pour ses reins. Donc finalement, c'est un mal pour un bien, et les effets indésirables, dans ce cas-là, peuvent être recherchés par le patient. Et puis, pour introduire la suite, qui va être évoquée par mes collègues au travers de leur expertise sur la question, cette prescription, c'est aussi à l'heure actuelle un paysage revisité, qui rend peut-être un petit peu obsolète certaines des notions que j'ai évoquées tout à l'heure. Puisqu'Internet, la médecine grise, la pharmacie grise que l'on trouve sur Internet, les associations de patients font que le patient est de plus en plus sachant. Il est donc de plus en plus médecin. Ce qui fait que les quid pro quo deviennent plus rares ou plus fréquents. Alors ce quid pro quo, je l'ai trouvé en préparant cette petite rencontre, ça m'a beaucoup amusé, c'est l'origine du terme quiproquo. Lorsque les apothicaires ont été séparés des épiciers, il y a bien longtemps, en fait, l'un des textes fondateurs dit qu'il s'agit ainsi de séparer le quid du quo. Ceci plutôt que cela. Quid pro quo et le quiproquo que vous connaissez. Donc là, le patient va prendre un médicament à la place d'un autre qu'il devrait prendre. Parfois, ça tombe à bon escient, parfois pas. Donc véritablement, on est en bien comme en mal, en plein quiproquo parfois. Le médecin, lui, devient un peu plus patient parce qu'il discute, parce qu'il y a des associations de patients, parce qu'il va lire peut-être des témoignages de patients sur Internet. Donc il devient plus proche du patient. Donc il va peut-être faire un peu plus de prescriptions au sens scientifique, proche du patient, un peu moins d'ordre en tout cas, ce qui est vécu évidemment comme plus agréable par le patient. Et puis tout ceci renvoie à la question d'observance du traitement dans ce paysage remodelé. Le patient qui parfois n'observe pas l'ordonnance du médecin, mais qui va aller acheter sur Internet à l'autre bout de la planète des médicaments dont il ignore toute la qualité ou de l'adéquation à ses besoins. Ce qui souligne, petit plaidoyer pro domo, vous m'en excuserez, le nouveau rôle pour le professionnel du médicament, qui est le pharmacien, à savoir les consultations qui sont mises en place en officine ou dans certains établissements pour les patients sortants, etc. Donc un regard tout nouveau jeté sur le médicament. Voilà pour cette petite introduction. Excusez-moi, j'ai été un petit peu plus gourmand en temps que ce que vous attendiez. Très
bien, merci, monsieur. Merci, Denis. Je ne m'étais même pas déplacé. On était captivés. Et de nous avoir remis dans l'ordre, nous faire sortir du chaos, c'est toujours une bonne nouvelle. Voilà. Et bien, écoutez, je pense que nous avons à peu près un quart d'heure de questions. Donc, qui souhaite intervenir?
Je suis désolé, je suis gastro-entérologue, mais en vous écoutant tout à l'heure, sur vos commentaires extrêmement profonds et fort à propos, la fonction symbolique du suppositoire. Qu'est-ce que vous en dites? Je sais. Et beaucoup de gens à travers le monde, c'est difficile à vendre de suppositoires aujourd'hui.
Bien, précisément, c'est ce que vous soulignez. Le suppositoire, déjà, n'existe quasiment pas dans les pays anglo-saxons, en tant que galénique, il n'est pas proposé. Et en France, à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'il est de moins en moins prescrit et que les patients, bien évidemment, n'apprécient pas du tout le suppositoire, qui est vécu comme une intrusion par définition. Alors ça se cristallise tout particulièrement en psychiatrie, où, sauf rarissime exception, on a pu administrer des suppositoires, mais savez-vous que chez nous, même une prise de température auriculaire est vécue comme une agression, une pénétration corporelle, voire une menace, parce que certains dispositifs pour prise de température, temporaux ou autres, évoquent un pistolet pour les patients. Donc vous voyez, il y a une exacerbation de la chose, mais effectivement, merci. Les galéniques ne sont pas toutes analogues et leur vécu par le patient est loin d'être toujours simple.
On l'utilisait pour les bébés, le suppositoire, on pensait que c'était très efficace. Et pour les enfants jeunes, je rappelle avoir utilisé le suppositoire pour mes enfants, pensant que c'était efficace tout de suite.
C'est efficace, c'est même tellement efficace que certains produits pour nourrissons sous forme de suppositoire ont été retirés du commerce parce qu'on pouvait avoir des surdosages... etc. Pour un enfant qui convulse, du Valium en intrarectal est une excellente solution. Mais au-delà de l'aspect pharmacologique, il y a effectivement, comme vous le soulignez excellemment, un aspect symbolique évident et qui est mal vécu par le patient.
C'est une méchante blague, mais pas tout à fait. Okay. Comment situez-vous l'eau de Lourdes dans les médicaments, parce que ça peut avoir un effet placebo énorme.
Et puis, bien sûr.
Que pensez-vous du suppositoire qui est servi à l'hôpital avec un verre d'eau ?
Mais je pense le plus grand bien de tout cela, le verre d'eau et le suppositoire, c'est la pomme et l'hypnotique, bien sûr. L'eau de Lourdes, alors au-delà des considérations de la foi propre à chacun, bien évidemment, sur lequel je ne partirai pas, c'est pas notre... Le lieu, mais l'eau de Lourdes, indépendamment et par elle-même chargée de puissance pour quelqu'un qui va la prendre, comme le placebo. On peut aller plus loin, et je vais sûrement faire bondir des gens dans l'assistance. Je ne suis pas franchement adepte de l'homéopathie, mais pour moi, l'homéopathie soigne évidemment. Alors ensuite, on peut discuter à l'infini de comment elle soigne, mais elle soigne. Pour quelqu'un qui a des bases de pharmacologie, j'avoue que parfois j'ai du mal à imaginez qu'un comprimé d'aspirine 500 mg dissous dans le volume du lac de Genève et dont on prend un verre pour le boire soit actif. Peu importe, enfin actif pharmacologiquement. Peu importe, il y a eu des tas de théories là-dessus, Benveniste, la mémoire de l'eau, etc. Voilà. Mais par contre, que ça agisse sur le patient, je n'en doute pas un instant. Je n'en doute pas un instant. Et c'est pareil dans l'établissement, j'ai l'occasion de le dire à certains médecins, mais il faut être convaincant aussi quand vous prescrivez un médicament à un patient. Par exemple, j'ai un exemple tout récent avec un interne qui prescrit systématiquement des correcteurs d'effets indésirables de médicaments. Bien sûr, ça existe. Le problème, c'est que quand j'en ai discuté, le médecin, cet interne, m'a dit « je fais une information très complète au patient, je lui donne le traitement et je lui explique tous les effets indésirables qu'il risque ». Évidemment, deux jours plus tard, le patient les a, ces effets indésirables. Au contraire, s'il lui disait... Il faut savoir être convaincant, parce qu'au-delà de l'effet placebo qui soigne, il y a aussi l'effet nocebo des médicaments, c'est-à-dire les effets indésirables psycho-induits par le médicament. L'un ne va pas sans l'autre. Chaque médaille a son avers et son revers.
C'est intéressant cette discussion sur placebo. Finalement, ça revient à chaque présentation. Et tu évoquais tout à l'heure le lac Léman. C'était effectivement le repris de l'article ou d'une critique de l'article de Benveniste à l'époque qui avait été très polémique. Et ce qui est tout à fait amusant, c'est que quand on aborde ces sujets avec des collègues par ailleurs brillants scientifiques, très cartésiens, qui disent oui, effectivement, Avogadro, etc., il n'y a pas la molécule, l'atome susceptible d'eux, etc. Et puis finalement, ils disent oui, mais, et c'est extrêmement intéressant, ça a marché chez ma fille, chez ma femme, chez moi, et on a quand même quelque chose.
Ça marche chez l'animal, ça marche.
Voilà. Alors, donc, on a discuté ce matin de cet effet placebo, je crois que tu es intervenu là-dessus, mais. On a quand même, c'est quelque chose qu'on a un petit peu de mal à gérer, y compris avec une culture, je dirais, moléculaire.
Voilà. Juste une alors pour le moine que j'évoquais tout à l'heure, dans son bouquin, c'est lié à la dimension du soin. L'efficacité du placebo, c'est directement celle du soin.
Ça ne me pose aucun problème. Je vous ai compris, j'étais extrêmement critique sur un plan purement scientifique. Et sur un plan d'efficacité, ça marche. Mais je vous donne un exemple dans les maladies dont tu as bien voulu citer, dont je m'occupais. Dans les plus vieilles études, quand on testait sur les symptômes, on avait jusqu'à 50% d'efficacité certains traitements. quand on a fait des endoscopies, des biopsies, l'effet placebo, avec le placebo, quand l'effet placebo, il disparaît pratiquement complètement. L'effet réel, après, sur la maladie qui est une maladie organique particulièrement sévère, il est quasiment nul. Et donc, tu agis sur des symptômes. Est-ce que tu changes quelque chose qui est une maladie grave, qui est un processus immunologique complexe qui est engagé avec simplement ton esprit? Parce qu'en fait, en gros, c'est un peu ça pour simplifier le message. Probablement non. Donc, cet effet placebo, l'homéopathie, a sa place dans certaines pathologies bénignes qui vont guérir toutes seules. Peut-être il suffit d'attendre l'évolution naturelle de la maladie. Donc, il faut être bon et benveniste quand même. On peut être assez critique sur la démarche scientifique qui a été quand même fortement remise en cause. C'est pas loin de... C'est une fraude.
Non,
okay.
C'était pas une fraude, mais comme je...
Ça n'a pas été vraiment reproduit, enfin bon.
On peut se tromper soi-même. Et oui, je crois qu'il s'est trompé en pensant que dans un test, et je pense qu'il était de bonne foi, c'est un très bon scientifique qui avait fait de très belles découvertes par ailleurs, qui lui a donné d'ailleurs cette audience, qu'il n'aurait sûrement pas eu autrement, mais il s'est trompé et il y a cru. Mais c'est bien
d'accord.
La preuve qu'on n'est
pas... Le mot change, mais le fond de l'affaire est la même quand même, c'est que ce n'était pas tout à fait vrai ce qu'il disait.
Ça, c'est clair.
D'accord.
Voilà. Non, moi, ce que je voulais rajouter, c'est qu'il n'y a pas seulement l'effet placebo. Quand on donne un médicament, il y a le côté magique. Et on a l'impression, on essaie parfois soulager très, très, très vite. Alors que nous, au niveau pharmacologie, on sait que le médicament n'a pas eu le temps d'agir. Simplement, le fait de prendre le médicament ou même d'avoir un effet de prise en charge, ouais, c'est un déclencheur. Les aidants aussi changent. À partir du moment où on commence à soigner un malade, mais la famille aussi reprend confiance, s'y prend différemment. Et on a déjà un effet. Et je crois qu'on ne peut prendre un médicament, il ne peut être vraiment efficace que si aussi on y croit. Et si, comme Denis disait très très bien, les effets secondaires, si, les effets indésirables, si on commence à tous les imaginer, c'est certain qu'on les aura. Si au contraire on prend un médicament en disant « il va me guérir », il y a un effet qui est rajouté au médicament lui-même.
Il est sorti un dictionnaire sur les médicaments inefficacité, certains médicaments, non? Un ouvrage,
oui,
qui liste les médicaments qui, en fait, sont inefficaces.
Oui.
Donc, quel est l'avantage ou le danger de ce genre d'ouvrage?
Écoutez, c'est un peu le même problème que Internet.
J'ai une diapositive dessus. Bon, je l'ai, voilà, ma tête. Voilà.
Donc, ce sera évoqué, oui.
Non, mais je peux vous le dire tout de suite. La difficulté quand on donne une information médicale, elle est extrêmement complexe. Et quand on veut simplifier à l'outrance, on finit par mentir. Et cet ouvrage, à part d'une idée qui n'est pas si mauvaise que ça, c'est qu'effectivement, il y a des abus en général. Et puis, mais l'information qui est donnée par les deux auteurs, dont un est quand même un neurologue, n'est pas un très grand spécialiste des médicaments, est quand même un petit peu abrupte, un peu grossière et par moments fausse et qui est éventuellement dangereuse. Mais l'idée de départ n'est pas mauvaise. Le problème, c'est... Voilà, son livre, je crois, leur livre, c'est assez bien vendu. Mais je suis un peu critique quand même sur ce type d'information. Parce que le malade, il va lire ça, il dit « Attendez, mais vous me dites des bêtises », alors que voilà, il a remis en cause toute une série de données. C'est bien de remettre en cause, je suis le premier à remettre tout en cause. Mais il ne faut peut-être pas aller trop loin non plus de sa part à lui. Il n'a pas, comment dire, la légitimité de donner autant d'informations. D'ailleurs, j'en profite pour dire que moi, tout à l'heure, je n'ai peut-être pas la légitimité pour parler de ce dont je vais parler non plus.
De légitimité. On a tous la légitimité du débat. Mais on n'a pas la légitimité de la décision abrupte. C'est tout le problème. Hein, le bouquin dont vous parlez, je l'ai regardé et je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que finalement, il demandait une chose, il disait, si les institutions ne sont pas d'accord avec moi, je ne demande qu'à en débattre. Et personne ne lui a jamais proposé le débat. Alors pourquoi? Faudrait creuser ça au niveau psychiatrique.
Cela dit, pour ce bouquin également, comme pour Benveniste tout à l'heure, c'était pas n'importe qui, c'était des gens qui avaient l'habitude des plateaux de télévision. Et je pense que ça a apporté au message et au fait...
Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens, des spécialistes qui consacrent toute leur vie, vous êtes témoin, à un médicament. Et à la fin, ils vous disent que, modestement, je ne maîtrise pas tout. Quand quelqu'un, deux personnes vous parlent de 4000 médicaments... on peut se poser la question, légitimement, est-ce que tout ce qu'ils disent est vrai? En sachant que c'est quand même, les informations sont très complexes à évaluer, à transmettre, et elles sont changeantes au cours du temps. C'est le truc du cholestérol, je peux vous dire, je peux vous en parler, j'aime bien le cholestérol. Bon, manifestement, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas des abus? Je suis assez d'accord avec eux. Voilà. On traite aujourd'hui des gens qui ont un cholestérol normal, on leur donne des médicaments qui font baisser le cholestérol. On peut s'interroger la légitimité de ça. Bon, de plein d'autres choses, voilà. Mais on ne peut pas tout prendre. Dedans, il y a certainement, je ne l'ai pas lu, moi. J'ai entendu parler, j'ai vu dans les articles de journaux, et j'ai vu les polémiques qu'ils ont déclenchées auprès de certains spécialistes, notamment les cardiologues, voilà. Et ce qu'ils racontaient, je pense que ça devait être vrai, mais je ne le dirai pas, bien entendu. Mais il y a un peu des deux. Oui. C'est ça le problème.
Ok. Je vous remercie. Merci, Denis, pour cette présentation très, très intellectuelle de la prescription. Oui, absolument. Et donc, c'est maintenant M. Daniel Chevalier de l'ARS qui va nous faire peur avec Internet. C'est bien ça?
Oui, alors tout d'abord, je remercie l'espace Mendes France de m'accueillir pour effectivement alerter les citoyens à l'occasion de ce forum citoyen sur un véritable souci de santé publique, parce qu'avec le développement d'Internet qui a été évoqué, eh bien, on a le développement d'un commerce dans lequel beaucoup de gens jouent à la roulette russe, je dirais. Et au sens propre, au sens figuré, puisque bon nombre de sites de commerce de contrefaçon de médicaments viennent de Russie, bon, bien sûr d'Asie, d'Afrique, mais essentiellement de Russie, aujourd'hui. Et c'est un phénomène qui monte en puissance. Je voulais en profiter aussi pour dire que l'association Accès aux soins et perspectives enjeux de la santé, qui est hébergée par l'espace Mendes France, nous a permis d'organiser une conférence avec un rédacteur de la revue Prescrire sur le prix des médicaments il y a quelque temps, et que mercredi 2 décembre, il y aura une conférence sur l'adolescence. Est-ce une pathologie? Enfin. Donc, quel produit peut-on trouver sur Internet? Des vrais, des faux médicaments? Eh bien, je dirais, on peut trouver de tout. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais je voudrais essayer de vous sensibiliser à cette question. Et monsieur disait tout à l'heure, est-ce que c'est du lard et du cochon quand on lit, etc. Je vais essayer de vous donner des éléments, des pistes pour que vous puissiez consulter des bases fiables du ministère, de l'Agence du médicament et d'autres, un institut privé. En tout cas, les ventes de contrefaçon médicamenteuse auraient atteint 55 milliards d'euros en 2010 contre 26 milliards en 2005. Donc, vous voyez un doublement, plus qu'un doublement en 5 ans. Et ça représente 10% du marché pharmaceutique légal. Alors, j'ai pris des sources dans un document que je vous invite à aller visiter. Je l'ai amené ici, c'est épais, donc il y a énormément de chiffres. Il y a des cas exposés de trafic de médicaments contrefaits via Internet. Et tout ça est très détaillé. Et ce sont des comptes rendus d'enquêtes qui ont été menés, qui ont abouti à des arrestations, à des sanctions et à stopper des trafics très importants via Internet. Et donc, c'est IRACM, c'est Institute for Research of Against Counterfeit Medicines, IRACM. Donc, ce site, je vous invite à aller le visiter, parce que vous avez énormément de données sur le monde entier. Cet institut, c'est une association à laquelle adhère notamment la France, qui en est à l'initiative, je crois, mais aussi 25 ou 26 autres pays. Et vous allez avoir des données très intéressantes sur les nouvelles, donc les pharmacies en ligne en France, par exemple, la situation en France, pour en savoir plus. Donc voilà, je laisserai mon diaporama, de toute façon, qui sera avec les liens, donc consultable sur le site de Mendes France. Un rapport de la Commission européenne, paru en 2012, précise que les médicaments contrefaits en volume sont les premiers produits saisis aux frontières de l'Union européenne via les échanges postaux. Et en Europe, cela représente 10,5 milliards d'euros de médicaments contrefaits. Alors je précise que nous sommes parfois contactés par les douanes pour, en tant que sachant, pour savoir si tel produit qu'ils ont trouvé dans un véhicule, qu'est-ce que c'est exactement, si tel colis intercepté venant du Pakistan ou de Russie ou de qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc il nous est arrivé de transmettre des échantillons au laboratoire de contrôle de l'Agence du médicament, et pour des produits qui sont présentés comme phytothérapeutiques, c'est-à-dire des produits à base de plantes, tout à fait naturels, bien sûr, eh bien, on retrouve des molécules chimiques, des médicaments, amphétamines et autres. Alors, ces produits, c'est souvent des produits contre les troubles de l'érection, des produits amaigrissants, etc. Donc, il faut savoir ce que l'on risque de recevoir lorsque l'on commande par Internet sur ce type de site. Alors, pourquoi est-ce que beaucoup d'entreprises, entre guillemets, s'engagent sur la voie de la diffusion, et notamment par Internet, de médicaments contrefaits? Eh bien, pour le record, c'est pour un investissement de 10 000 euros, vous pouvez récolter 500 000 euros grâce aux médicaments contrefaits. Alors, les résultats de ces contrefaçons, de l'utilisation de ces médicaments contrefaits, c'est 700 000 morts par an dans le monde. Ça, ce sont des chiffres de l'OMS et de l'IRACM que j'ai cités précédemment. Essentiellement, évidemment, ce sont les pays en voie de développement qui sont touchés, et notamment dans le domaine de du paludisme et de la tuberculose. Et on a compté 90 pays touchés par ces médicaments contrefaits. Alors, il y a des exemples, vous verrez dans les rapports et sur les liens que je donnerai avec mon diaporama. Il y a quand même des sirops pour enfants, des sirops antitussifs pour enfants qui contenaient de l'antigel et qui ont occasionné 90 décès chez des enfants. Il y a, les exemples, je ne veux pas vous noyer sous les chiffres et les exemples, mais c'est ce à quoi on s'expose en acquérant des médicaments contrefaits, notamment par Internet, puisque c'est une voie qui se développe à grande vitesse. Pourquoi ? Parce que c'est un vecteur majeur de distribution. Et puis, l'e-commerce à l'échelle mondiale présente des avantages, c'est qu'on ne peut pas identifier ces gens. Le maillage est mondial, donc on va vite vers des volumes considérables, donc la discrétion. Et puis, les sanctions pénales, comparé aux sanctions pénales prévues pour le trafic de stupéfiants, les sanctions pénales sont quand même nettement inférieures. Donc moins d'exposition, plus de rentabilité. Moins d'exposition aux sanctions pénales, plus de rentabilité. Alors oui, j'ai extrait du bulletin de l'OMS d'avril 2010 que la proportion de médicaments achetés sur des sites internet qui dissimulent leur adresse physique serait de 50%. La moitié des sites ne... Vous ne pourrez pas trouver d'adresse géographique, vous ne saurez pas à quelle zone géographique vous rattachez, quelle adresse si vous commandez ces médicaments. Alors, on a identifié, et ça je vous invite pour ce que la technique intéresse particulièrement, à regarder dans le rapport de l'IRACM, mais les grandes techniques de cybercriminalité, c'est le cybersquatting. Et là, il me vient à l'esprit, vous avez peut-être entendu parler dans les médias de ces pharmacies françaises dont les noms de domaine ont été accaparés par des Russes, justement, par la mafia russe. C'est simplement que, alors je ne suis pas un spécialiste, hein, mais chaque année, quand vous êtes en .com, vous devez faire enregistrer votre nom de domaine. Si vous ne le faites pas chaque année, il tombe dans le domaine public et n'importe qui peut le prendre. Et ces gens-là sont à l'affût de tous ces noms de domaines qui tombent et qui étaient connus pour être des noms de pharmacie connus en France. Donc des gens voient pharmacie-delagare.com, etc. Ils l'identifient parce qu'ils l'ont vu jusqu'à... Or, quelques dizaines de pharmacies ont été squattées comme ça, parce qu'elles n'ont pas... C'est en .com, oui. Et il paraît qu'en .fr, ça n'est pas possible. Alors après, évidemment, les forums, les spams, la manipulation des moteurs de recherche. Alors, notamment Google s'est régulièrement fait remonter les bretelles pour, parce que, justement, ces réseaux de cybercriminalité utilisaient les moteurs de recherche. Et plus on paye, plus le nom remonte, on accède plus facilement. Voilà. Et donc, ça, c'est dans le rapport de l'IRACM aussi. Plus de 80% des e-pharmacies recourant à la publicité en ligne serait illégal. Alors, quelle lutte contre cette diffusion de contrefaçons par Internet, de contrefaçons de médicaments diffusés par Internet ? Il y a régulièrement des opérations... menées par... elles sont internationales, évidemment. On ne peut pas concevoir une lutte contre ces trafics sans une coordination internationale. Et les opérations sont dénommées Pangea. Et on en est à Pangea 6. L'objectif de ces opérations, c'est la lutte contre la vente illicite de médicaments sur Internet. La dernière a eu lieu du 18 au 25 juin 2013. Et cette année... 99 pays ont été impliqués, dont la France, mais la France est impliquée dès le début. D'ailleurs, elle est motrice dans cette action. Et puis, ces opérations Pangea ont donné lieu à des arrestations dans le monde entier et à la saisie de milliers de médicaments potentiellement dangereux. Alors, là aussi, je ne vais pas développer, mais je vais vous montrer des sites que je vous invite à consulter. Parce qu'il y a une foule d'informations, et pour ceux qui veulent des détails, l'opération Pangea. Avec les intervenants français, j'en profite pour les citer, parce qu'ils ont un site où vous pouvez trouver des informations aussi. C'est l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. C'est un office central de la gendarmerie. L'OCLAESP, chez nous on dit l'OCLAESP. Donc Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique. L'Agence nationale du médicament et les douanes. Bien sûr, dans ces actions-là, les douanes jouent un rôle majeur. Alors, est-ce qu'il existe une possibilité légale de vendre des médicaments sur Internet ? Est-ce que vous avez la possibilité d'acheter des médicaments sur Internet ? En toute sécurité, dans un circuit légal. Alors, je voudrais rappeler quand même... une notion, on parle de monopole pharmaceutique. Alors déjà, je voudrais insister sur le fait que c'est un monopole de compétences. À tous les niveaux, de la fabrication, en passant par la distribution en gros, jusqu'à la dispensation, qui est définie très précisément dans le Code de la santé publique, le pharmacien qui fait au moins 6 années d'études est responsable. Et il doit effectuer une dispensation, donc, qui est décrit dans le Code de la santé publique. Alors, la dispensation par voie électronique, la question s'est posée, comment réaliser cette dispensation en ville des médicaments par voie électronique en respectant toutes les exigences qui sont habituellement celles que le pharmacien doit respecter au moment de la dispensation matérielle, physique. Alors, en France, c'est tout récent. Une ordonnance du 19 décembre 2012 relative au renforcement de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des médicaments, à l'encadrement de la vente des médicaments sur Internet et à la lutte contre la falsification des médicaments. Vous voyez, tout se tient. Depuis cette ordonnance, on a la possibilité, les pharmaciens d'officine ont la possibilité de demander l'autorisation d'exercer la dispensation de médicaments par voie électronique. Alors, dans quel contexte un contexte très cadré et même trop aux yeux des institutions européennes, enfin de l'Union européenne, et des administrations de la concurrence et de la consommation, qui pensent que trop de freins sont mis à cette diffusion, cette délivrance, de cette dispensation de médicaments par voie électronique en France. Alors, en Europe, vous avez des pays où tous les médicaments peuvent être vendus par voie électronique, y compris les médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses. Je crois que c'est le cas en Allemagne. Bon. En France, seuls les médicaments qui ne nécessitent pas une prescription, une ordonnance, donc qui ne relèvent pas de la réglementation des substances vénéneuses, peuvent être dispensés par voie électronique. Et encore, la réglementation était plus restrictive, mais la juridiction administrative a estimé que là, ça n'était pas conforme aux directives européennes, et il a fallu élargir. Et donc, tous les médicaments qui ne relèvent pas d'une liste de substances vénéneuses peuvent être vendus par voie électronique. Alors, j'en profite pour vous présenter le site du ministère de la Santé, qui a créé tout récemment donc cette page médicaments. Qu'est-ce qu'un médicament? Le circuit du médicament, surveillance des médicaments, les génériques, bien utiliser les médicaments, mais surtout pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les sites autorisés pour la vente de médicaments sur Internet. Alors, vous pouvez donc consulter, il y a de l'ordre de 60 ou 70 officines de pharmacie qui sont autorisées aujourd'hui par région. Elles sont listées sur le site du ministère de la Santé. Et si vous allez sur vous faites un copier-coller avec le nom de domaine, là, et vous avez le site de la pharmacie. Et a priori, tant que c'est sur le site du ministère ou sur le site de l'ordre des pharmaciens, vous avez la garantie que c'est une pharmacie d'officine française qui a été autorisée, je dirais par quelle institution ensuite, par quelle autorité administrative, qui a été autorisée à vendre des médicaments par voie électronique. Donc vous avez la possibilité de voir toute la liste. Je vous invite à visiter le site, outre le site de l'ordre du ministère de la Santé, bien sûr, le site de l'ordre des pharmaciens, où il y a énormément d'informations sur le médicament, sur l'organisation de la profession, etc. Et les gens se posent beaucoup de questions sur l'organisation des professions avec des ordres, médecins, pharmaciens, et vous avez des réponses qui sont très intéressantes sur ces questions-là. Alors, les autorisations sont délivrées par les agences régionales de santé. Et donc ici, c'est l'Agence régionale de santé de Poitou-Charentes. Et là aussi, je voulais en profiter pour vous présenter le site où vous avez pas mal d'informations sur la sécurité environnementale, un sujet abordé ce matin, puisque j'ai des collègues ingénieurs en santé environnementale et techniciens sanitaires, tous ces gens-là qui étaient dans les DAS avant contrôlent l'eau, l'air, l'habitat, etc. Nous sommes, ça tombe vraiment bien, dans la semaine organisée par le ministère de la Santé, mais au niveau européen, sur la sécurité des patients. Et puis, vous avez des informations pratiques, comme les pharmacies de garde par département, etc. Donc, en vous référant à ces informations que je vous ai données, vous avez tous les éléments pour ne pas prendre de risques en achetant des médicaments sur Internet. Mais si vous voyez du Cialis ou des médicaments pour maigrir ou des médicaments, qui nécessitent une prescription, liste 1, liste 2 ou stupéfiant, vous pouvez déjà vous dire que c'est un site illégal et que vous prenez des risques. Au mieux, vous risquez d'avoir un médicament qui ne contient rien. Au mieux, et ça peut être une perte de chance. Et au pire, vous avez vraiment des médicaments qui ont fait des morts, qui ont fait, je vous citais l'exemple des 80 ou 90 enfants qui sont morts en absorbant un sirop qui contenait de l'antigel. Voilà à quoi on s'expose en achetant sur Internet. Je pense que c'est la dernière diapo, oui. Je vous remercie.
tiennent leur timing sans que l'on...
On essaye.
C'est remarquable. Merci. J'espère que tous les sites que vous avez montrés sont légaux.
Ah oui. Ministère de la Santé, j'espère.
Ministère de la Santé. OK. Des questions? Oui, vous passez le micro.
Sur les sites des pharmacies qui sont autorisées, est-ce qu'on retrouve, je sais pas, une iconographie ou quelque chose qui permet de savoir qu'on est sur un site officiel de pharmacie, ou est-ce que c'est juste la liste du ministère?
Je pense qu'il vaut mieux aller sur les listes du ministère et de l'ordre des pharmaciens, qui en principe sont identiques, puisque les échanges d'informations sont simultanément, que ce soit les autorisations ou les retraits ou les fermetures temporaires, etc. Puisque il y a des règles, je dirais, drastiques à respecter pour exercer la dispensation par voie électronique, et la fermeture temporaire d'un site est envisagée, prévue dans la réglementation, des amendes, des sanctions administratives, des amendes sont prévues, etc. Donc il n'est pas exclu qu'on voit des sites disparaître. Puis en ce moment, il y a un afflux quand même assez important de demandes, mais plutôt que d'aller sur le site de la pharmacie d'abord... Et puis de vous dire, parce que les critères, c'est évidemment un lien avec l'ordre des pharmaciens, un lien avec, mais ça, n'importe qui peut le faire. Hein, donc il vaut mieux aller sur le site du ministère, dire, est-ce que dans ma région, il y a une pharmacie autorisée à dispenser par voie électronique des médicaments? Et à partir de là, vous cliquez sur cette pharmacie et vous aurez ses coordonnées et vous pouvez...
Quel intérêt d'acheter des faux médicaments? Ils sont moins chers. Oui, sur Internet.
Alors, quel intérêt? Ce qui est surprenant, c'est que si vous regardez le rapport de l'IRACM, en français l'Institut de recherche contre les falsifications de contre les médicaments falsifiés, vous verrez que quelques milliers d'Américains ont été consultés dans une enquête. Et il en ressort que sur cette question d'acquisition de médicaments sur Internet, il en ressort que je crois que c'est 25%, tout en ayant conscience qu'ils s'exposent à des risques que je viens de vous exposer là maintenant, persistent parce que c'est moins cher. C'est surprenant parce que là, bon, ça c'est une enquête aux États-Unis.
Oui. Je proposais que ce soit la dernière question, parce que finalement, puisque c'est quand même une table ronde, on va essayer de globaliser les questions. Voilà.
Alors, vous avez fait une présentation extrêmement négative. À titre personnel, ma belle-mère voulait un produit, entre guillemets, parce que là, la dame est là, elle a 89 ans, parfaite bonne santé. Elle a acheté dans une pharmacie un produit qu'on trouve sur Internet, je l'ai acheté, c'est la même source, c'est le même laboratoire, alors je n'ai pas tout vérifié, et c'est effectivement deux fois moins cher. Donc, alors après, est-ce que c'est un vrai médicament? Effectivement, il fait partie de ceux qui ne sont pas... On peut dire, c'est un ophtalmologiste qui lui a recommandé de prendre ce produit. Mais il n'est pas remboursé, donc il n'a pas fait d'ordonnance, ou je ne sais pas, ou il a fait une ordonnance, hein? C'est pas d'automédication, c'est un médecin, un ophtalmologiste qui lui a prescrit. Alors après, on peut être critique, etc. Donc il y a des antioxydants, des produits DHA et tout ce que vous voulez. Bon, alors c'est tout ça pour dire que elle les a pris. Et je ne sais pas ce qu'il y a. Elle a l'air à peu près bien actuellement. Je suis sûr qu'il y a une place encore aux États-Unis, dont vous avez centré votre débat sur la Russie, sur des pays où il y a beaucoup de délinquance à tout point de vue. Mais je crois qu'aux États-Unis, ça se fait pas mal, etc. Il y a bien quelques circuits sécurisés pour certains produits. Et la deuxième chose, quand vous avez cité le chiffre de 700 000 morts, avec l'impression que je ne vois pas quel est l'intérêt pour les gens qui vendent ces produits sur Internet de donner des poisons dedans. C'est des erreurs. La plupart du temps, c'est il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc le risque des 700 000 morts, c'est par extrapolation au fait que s'ils avaient eu le traitement, par exemple, du paludisme ou de la tuberculose, ils ne seraient peut-être pas morts. Mais c'est une vision peut-être... est-ce que... Alors ce n'est pas recommandé, bien entendu, dans un pays, mais les principales victimes, c'est les pays les plus pauvres. Et pourquoi? La question, c'est clairement, c'est parce que c'est beaucoup moins cher. Alors effectivement, il y a des gens malhonnêtes qui sont engouffrés dans le système. On pourrait imaginer que c'est une solution pour... Jusqu'à quel prix pour les médicaments, la dernière... j'aurais fini à la fin, j'aurais pas besoin de rien dire. Est-ce que c'est une solution? Je ne l'ai pas mise dedans parce que ça fait partie, c'est très polémique et tout est polémique dans le sujet.
Alors, les circuits légaux, je vous les ai exposés. Maintenant, je regrette de ne pas avoir pris des photos de contrefaçons et de médicaments originaux mises côte à côte, de médicaments qui ont été saisis. Et ce sont des documents qui sont disponibles à l'Agence du médicament et qui m'ont été présentés par des collègues. J'ai vu les boîtes aussi. Je vous mets au défi de me dire ça c'est la bonne, ça c'est la mauvaise, jusque sur la notice, jusque sur les numéros de lot, jusque sur l'incrustation de la date de péremption, vous ne pourrez pas. Donc après vous faites ce que vous voulez, mais je veux dire il y a quand même un fort risque. Et les 700 000, ce sont des données à partir de constats de l'OMS, des collections de chiffres.
Est-ce que ça concerne le public ici français? Est-ce qu'il y a dans les pharmacies, parce que sinon il y a un circuit. Il faut imaginer que le circuit, je ne sais pas, les gens qui sont en France, puisque la plupart des médicaments sont remboursés.
Oui.
Quel est le risque que les Français s'exposent à... Bon, il y a le Cialis, bon, effectivement, ceux-là... Bon, l'effet placebo va peut-être jouer à plein. Hein. Quel est le risque réel pour la population française auquel on s'adresse aujourd'hui?
Alors, la France est à l'abri relativement de la contrefaçon, et ça s'explique par son réseau de distribution de médicaments. Parce que justement, j'ai fait référence au monopole pharmaceutique tout à l'heure, on échappe pour le moment à cette problématique des contrefaçons, sauf pour les gens qui commandent à l'étranger sur Internet. Mais le réseau légal en France, il est considéré comme fiable et on n'a pas noté d'introduction dans le circuit légal de contrefaçon. Ça, aujourd'hui en France, on n'en connaît pas. Ce qui n'est pas le cas d'autres pays de l'Union européenne. Grande-Bretagne aussi.
Alors, éventuellement, une petite question, si c'est dans la continuité de cette interrogation. Sinon, on les garde pour après.
Au cas où, c'est parler de médicaments non substituables ou pas. Nous, en tant que prescripteurs, ce sera...
Alors, on peut peut-être reprendre cette question après. Hein. Donc, on va passer la parole à Mme Fauché-Grassin, qui va nous parler des génériques, et là aussi... va susciter des réactions.
Non, mais c'est que j'en ouvre deux. J'avais besoin d'en ouvrir deux, maintenant il faut que je le retrouve. Voilà. Voilà, donc s'il y a un sujet dont on entend énormément parler dans les médias qui concerne les médicaments, ce sont bien les génériques. Je crois qu'il n'y a pas une journée sans qu'on entende quelque chose à leur sujet, que ce soit dans la presse écrite, des grands titres d'hebdomadaires ou dans les médias. Il y a eu l'affaire Teva il n'y a pas si longtemps où là on a en profité pour faire une campagne anti-générique. Alors l'idée aujourd'hui, ça n'est pas de faire l'apologie des génériques ou de les rejeter complètement, c'est simplement de faire un point avec vous des idées reçues autour des génériques. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui l'est moins? Et donc, j'espère que vous allez participer un peu à ce jeu. Alors déjà, première question, la composition en substance active est identique, qu'il s'agisse d'un générique ou de l'original. Est-ce que pour vous, c'est vrai ou pas? Vrai pour vous aussi? Voilà. Alors, c'est vrai. Effectivement, là, c'est une partie qui est tout à fait réglementée dans le Code de la santé publique. Donc un générique est un médicament qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif que le médicament qu'il copie et dont la bioéquivalence, on dira un peu ce que c'est tout à l'heure, est démontrée. Il y a simplement une marge de tolérance, mais cette marge de tolérance, pour pratiquement tous les médicaments, ça ne pose aucun problème. Alors, est-ce que le générique est une copie conforme de l'original ? Vous êtes bien formé, donc c'est vrai, c'est faux. Parce qu'effectivement, si le principe actif est le même, la composition sur les excipients qui forment ce médicament peuvent être différents. Donc on a l'excipient. En fait, quand on a un comprimé, par exemple, à fabriquer, si on a 3 mg de principe actif, le comprimé de 3 mg, on n'arrivera pas, il sera microscopique. Donc on a besoin de rajouter une substance inerte autour pour faire le comprimé, voilà, ou pour une forme injectable, un conservateur, ou un stabilisant, etc. Donc au niveau des génériques, effectivement, les laboratoires n'ont pas l'obligation d'avoir le même excipient que la molécule princeps. Hein. Le princeps, c'est la molécule d'origine. Alors ça peut être du lactose, de l'amidon, de l'aspartame, ça, c'est très différent selon les médicaments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous dit, moi, la molécule princeps, je supporte l'excipient, je ne supporte pas pour le générique. Alors si ça vous intéresse, j'ai un tableau tout à l'heure. Moi, j'ai repris sur, par exemple, l'amoxicilline, le clamoxyl, les génériques. Eh bien, on a des génériques qui ont le même excipient que la molécule princeps. Donc là, si vous êtes allergique à l'un, vous serez effectivement allergique à l'autre. Ou au contraire, d'autres excipients qui ont un autre excipient. Donc vous pouvez être allergique à l'excipient de la molécule princeps et ne pas l'être à celui du générique. Donc ça n'est pas lié à molécule princeps ou générique, c'est lié à l'excipient lui-même. Et donc les excipients, bon, c'est sûr que selon la façon dont ils sont utilisés, ça peut modifier la bioéquivalence, c'est-à-dire la quantité de principes actifs dans le sang, donc l'efficacité. Donc ça, on le vérifie avant de mettre sur le marché un générique. Mais les différences de tolérance sont individuelles et ça n'est pas un critère de choix, soit en faveur du générique, soit en faveur de la molécule de base. La présentation et l'aspect peuvent être différents de l'original. Donc ça, c'est vrai aussi, tout à fait. Ça peut être différent. C'est toujours la même voie d'administration, c'est-à-dire que la forme orale, le générique aura une forme orale, la forme injectable, le générique aura la forme injectable. En revanche, on parlait tout à l'heure, Denis en parlait, de la couleur du comprimé. C'est vrai que la couleur du comprimé peut être différente, la taille peut être différente. On peut avoir des gélules, par exemple, à la place de comprimés, ce qui peut être aussi un avantage. C'est-à-dire que le patient qui a du mal à avaler des comprimés, s'il y a un générique en forme gélule et qui préfère les gélules, ça peut être quelque chose de positif. Quand on pense aussi au générique pour les enfants, ils sont assez sensibles au parfum. Donc si vous avez un sirop qui est génériqué, en ce moment-là, l'intérêt, c'est qu'il y en a un qui peut être à la banane et l'autre au caramel, et que donc le générique, parfois, peut être meilleur que la molécule princeps si votre enfant il n'aime pas la banane et s'il préfère le caramel. Donc, effectivement, les présentations peuvent être différentes, mais là aussi, avantages, inconvénients, aussi bien en fonction de l'un que de l'autre. Donc, la forme galénique, elle est semblable, mais pas strictement identique. Là aussi, on s'est assuré qu'on avait la même efficacité. Et donc, on tient compte du confort de prise pour le patient. Donc, en résumé, déjà, entre générique et molécule princeps, donc, le principe actif, ça sera le même principe actif. Il peut se présenter avec des formes chimiques légèrement différentes, mais ça ne joue pas sur l'activité. L'excipient peut être différent. Et la galénique, la forme peut être un petit peu différente également. Alors, un générique est de moins bonne qualité qu'un original. C'est faux. Effectivement, M. Chevalier, je crois, anime une formation dans la semaine aussi sur la fabrication des médicaments. C'est vrai que les génériques passent tous par les chaînes des laboratoires pharmaceutiques sous responsabilité pharmaceutique. Donc, ils ont des contrôles identiques aux molécules originales. On a même parfois des laboratoires, quand les génériques sont sortis, font et la molécule de base et la molécule générique. Donc, les chaînes de fabrication sont totalement identiques. J'ai une photo là, que je pourrais vous montrer si vous voulez. Les molécules, les boîtes, tous ressemblent parce qu'effectivement, ça sort du même endroit. Donc, même règle de fabrication et de distribution que l'original. Soit ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui livrent directement ou les officines ou les pharmacies hospitalières, ou sinon les grossistes répartiteurs. C'est le même circuit pour les deux types de médicaments. On nous dit, les génériques sont tous fabriqués à l'étranger et les molécules, les autres, sont faites en France. Mais en fait, il y a 50% des génériques fabriqués en France. Mais en fait, c'est valable aussi pour les molécules princeps. Et puis, en ce qui concerne les principes actifs, vous savez que maintenant, on a beaucoup de principes actifs qui viennent de l'étranger, mais c'est valable pour tous les types de médicaments, que ce soit un générique ou un non-générique. Alors, j'avais mis danger à chat sur Internet. Je crois que je ne vais pas revenir sur ça. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Alors après, la vraie question, c'est est-ce qu'un générique peut avoir une moins bonne efficacité que l'original ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vrai et faux, c'est tout à fait ça. C'est faux, mais Voilà, exactement. Donc la majorité des génériques ont la même efficacité que la molécule princeps. En revanche, on a quelques cas de médicaments qui sont ce qu'on appelle des médicaments à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire des médicaments où on a quand on prend un médicament, on est soit non efficace, on est efficace et on peut être toxique. Et donc, la partie efficacité peut avoir une marge plus ou moins importante selon le type de médicament. Donc, effectivement, si on a un médicament avec une marge thérapeutique assez étroite, là, on peut avoir une petite différence si on passe avec un générique. Et on a également quelques médicaments où on a une grande variabilité individuelle, c'est-à-dire qu'on a des médicaments, selon la personne qui le prend, elle le tolérera plus ou moins bien, l'efficacité ne sera pas tout à fait la même. Disons qu'on verra que les concentrations au niveau du sang peuvent être différentes selon les personnes. Donc, ce sont des médicaments où il faut équilibrer, mais vraiment à la carte, c'est-à-dire pour un patient donné. Et puis, tout de suite, avant de dire qu'un médicament marche moins bien qu'un médicament princeps, il faut s'assurer qu'il est bien pris. Parce que souvent, on ne pense pas assez à l'observance. Quand on a un médicament qui ne marche pas, il faut déjà s'assurer qu'il soit pris de la bonne façon et qu'il soit réellement pris, qu'il ne reste pas sur la table de nuit. Alors, l'évaluation de l'efficacité d'un générique, c'est très réglementé, hein, puisque c'est un médicament qui a une AMM, comme les autres médicaments. Donc, on a, pour s'assurer qu'ils sont aussi efficaces, eh bien, on vérifie ce qu'on appelle la bioéquivalence, c'est-à-dire qu'on s'assure qu'il y a la même concentration de principes actifs dans le sang. Et si on a une biodisponibilité identique, on conclut à une équivalence biologique et donc d'une efficacité identique. Et donc, on fait des essais cliniques à ce moment-là, on vérifie sur les volontaires sains cette bioéquivalence. Donc, bioéquivalence, biodisponibilité, là je fais assez simple, hein, c'est la quantité de principes actifs qui atteint la circulation générale. Et donc, on vérifie si la quantité est à peu près la même. Et on voit si on a une biodisponibilité à peu près relative entre deux mêmes formes galéniques et absolue entre une forme injectable et une forme orale. Donc, c'est un peu technique, ça, mais c'est simplement quelque chose pour vous montrer que c'est vérifié et qu'on ne décide pas du jour au lendemain qu'un médicament générique il est aussi efficace que la molécule princeps sans avoir fait d'études particulières. On a simplement accepté une marge de variabilité entre le générique et la molécule princeps, mais pour tous les médicaments, comme je vous ai dit, la marge thérapeutique étant très large, ça n'a aucune influence sur l'efficacité. Pour ces médicaments qui ont, eux, au contraire, une marge thérapeutique un peu étroite, déjà, on a modifié la réglementation, puisque la marge thérapeutique est de moins 10 à plus 15%. Et ça concerne peu de médicaments, globalement, les antiépileptiques, certains médicaments cardiovasculaires, mais alors comme la digoxine, hein, ou des médicaments hormonaux, comme la lévothyroxine, et puis les immunosuppresseurs, où là, ce sont des médicaments où il y a une variabilité individuelle, difficulté pour équilibrer les patients. Donc là, effectivement, il peut y avoir une petite différence. Un patient qui change de spécialité peut voir des différences. Donc pour ces médicaments, il n'y a aucune incidence si on démarre un traitement. Quand on vous initie un traitement, par exemple, avec de la lévothyroxine, donc vous démarrez avec le générique, ça ne pose aucun problème puisqu'on va vous équilibrer avec le générique. En revanche, si vous êtes depuis des années sous lévothyrox, là, ça ne vaudra vraiment pas la peine de passer au générique puisque là, on y gagnera peu. On sera obligé de faire des contrôles biologiques très, très fréquents et donc le côté coût et efficacité pour la société, disons, n'est pas très intéressant. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aussi qu'il n'y ait pas un ping-pong permanent entre la molécule princeps et le générique pour ces familles de médicaments. Donc là, ce qu'on demande, c'est que quand un médicament à marge thérapeutique étroite est donné, par exemple, sous forme de générique, mais ça soit toujours le même qui soit donné au patient. Alors, ce qui est important aussi, c'est que le patient et les génériques, c'est bien gentil tout ce que je vous raconte, mais si vous n'y croyez pas, ben, le traitement ne marchera pas. Donc pour cela, il faut que le patient il soit informé et qu'il soit bien informé, j'allais dire par des sachants. Donc ayez confiance dans vos professionnels de santé quand ils vous parlent des génériques. Les médias, parfois, c'est assez approximatif. On essaie de faire du spectaculaire et des scoops, et ce n'est pas toujours la réalité. Il faut savoir que chaque patient vraiment est unique, donc même l'information qu'on va lui donner, elle doit être adaptée à ce patient. Il doit avoir compris, il doit être capable de prendre ce traitement avec en toute sécurité, il doit être observant. Donc ça, la personne âgée qui a déjà du mal à comprendre son traitement, qui a une molécule qu'elle prend depuis 20 ans, la changer pour économiser un tout petit peu avec le risque qu'elle ne prenne plus le médicament ou qu'elle prenne l'ancien et le nouveau, là, ça ne vaut pas la peine. On est dans les cas exceptionnels, mais dans ces cas-là, ça ne vaut vraiment pas le coup de passer au générique. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la politique non générique, pour tout le monde, pour un traitement antibiotique ou pour quelqu'un qui est capable de comprendre son traitement, ce n'est pas non plus la bonne solution, parce que le générique, c'est aussi efficace que la molécule normale. Et puis, on a quand même un devoir social, c'est-à-dire que pour pouvoir développer ou avoir à disposition des médicaments très coûteux, mais il faut qu'on fasse des économies, parce qu'on n'a pas un budget médicaments au niveau de budget santé au niveau national qui est extensible à volo. Donc là, ça rentre dans le devoir social. Alors il faut savoir que je vous ai mis juste deux diapositives sur ça. En 2011, un médicament délivré sur quatre était un générique. Ça représente environ 15% des médicaments remboursés. Donc c'est une somme quand même de 3,2 milliards d'euros. En revanche, les Français ne sont pas des bons élèves sur les génériques. On est toujours en retard vis-à-vis en particulier des Allemands, du Royaume-Uni et de la majorité des pays d'Europe. Alors, en France, quand même, nous progressons, hein, puisqu'on était à 71% il y a quelques années. Maintenant, on est à 83%. Et la région Poitou-Charentes est exactement dans la norme nationale. On a la même progression sur l'utilisation des génériques. On demande la stabilité de la marque des génériques auprès des pharmacies d'officine, de façon qu'ils ne vous changent pas tous les quatre matins de fournisseurs. Et donc, vous voyez que dans le Poitou-Charentes, 85% des pharmacies garantissent la stabilité de la marque du générique et 94% des patients reçoivent toujours la même marque. Donc, pas de limite à la prise d'un générique. Je crois qu'il faut qu'on soit citoyen. On est dans un forum citoyen, donc il ne faut pas du tout refuser systématiquement le générique. Simplement, on a quelques cas particuliers où là, il faut bien réfléchir avant de les donner. Les médicaments où on a une marge thérapeutique étroite ou une variabilité individuelle, si le traitement est déjà débuté, s'il est bien équilibré, et si le coût pour l'équilibrer coûte plus cher que l'économie réalisée, là, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et puis, en plus, il ne faut pas forcer un patient à prendre un générique si vraiment il ne le veut pas. Simplement, il faut bien l'informer, lui faire comprendre vraiment ce qu'est un générique. Et si on voit qu'il ne comprend pas ou qu'il n'adhère pas et que c'est une croyance vraiment extrêmement profonde de sa part, donc là, on ne pourra pas le forcer. Mais ça devrait rester l'exception plutôt que la règle. Voilà, je vous remercie. On fait les questions à la fin ?
On va quand même en autoriser une ou deux puisqu'on l'a fait. Voilà, pour Monsieur Chevalier. On reprendra une synthèse.
Oui, juste une petite remarque. Il y a des produits injectables où le générique n'a pas l'antidouleur par rapport au princeps. Donc, il faut rajouter l'antidouleur, ce qui fait qu'en fait, le coût du médicament est plus onéreux.
Alors, disons qu'à ce moment-là, ça n'est sûrement pas un vrai générique. Le vrai générique, c'est le même principe actif ou la même association de principes actifs. Donc, si on a dans la molécule princeps un antidouleur associé à un autre médicament ou deux antidouleurs associés, on les retrouvera dans le générique. Donc là, normalement, il ne devrait pas y avoir de différence. Donc, si on vous parle de générique, ça n'est pas tout à fait le bon terme qui a dû être fait.
Et la deuxième remarque, il y a des produits, dont le produit du laboratoire coûte même moins cher que le générique.
Alors, il y a certains laboratoires qui ont baissé le prix de la molécule princeps lorsque les génériques sont sortis. Donc, effectivement, il peut y avoir parfois des coûts un petit peu diminués, disons à peu près identiques. Ça n'est pas la majorité des cas. On a encore beaucoup de cas où la forme princeps est plus chère que le générique.
Ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, l'objectif poursuivi est atteint. C'est-à-dire que le laboratoire, c'est vrai, c'est un cas que l'on connaît. Lorsque les génériques proposent des produits bien moins chers que sa spécialité princeps, ils se dépêchent de baisser. Et tant mieux, l'objectif poursuivi est atteint.
OK. Donc, on va enchaîner sur la dernière présentation du docteur Philippe Beau, lui qui va nous parler de médicaments dispendieux.
Je peux... Oui. Bien, je vous remercie également donc, de m'avoir invité. Donc, j'ai bien noté, M. Lecron, vous aviez dit qu'il y avait trois orateurs brillants, donc je suis le quatrième. Donc, vous me pardonnerez toutes mes imperfections. Alors, vous m'avez confié le sujet certainement le plus difficile, qu'on ne peut pas trouver tout près sur Internet. Et j'ai bien essayé de respecter les recommandations, c'est de m'adresser à un public, un public tout venant. Grand public. Alors, j'ai dit un mot de ma légitimité. Donc, ma seule légitimité vis-à-vis du médicament, c'est que je suis un prescripteur de médicaments coûteux et très coûteux, à la fois à l'hôpital et à la fois à l'extérieur de l'hôpital. Et je m'occupe en gros que de pathologies rares et coûteuses, ne serait-ce que par leur durée. Et ça veut dire quelquefois, c'est que les malades vivent longtemps. C'est peut-être pas si mal que ça. Alors, la première chose que je voulais vous dire. On me demande de parler des médicaments. Je pense qu'il faut prendre un tout petit peu de hauteur. Et on ne peut pas imaginer les médicaments en dehors du coût général de la santé. Et je vous montre sur cette diapositive, qui est par exemple qualité, la place de la France. On est parmi les champions. C'est à peu près 12% de notre produit intérieur brut, pardon, qui est consacré aux dépenses de santé. Il y a quelques pays qui font mieux que nous. Les États-Unis, 17%. Et que par rapport à la moyenne, donc on est parmi les premiers, et tout le monde le sait ici, et je crois que ça participe à la grandeur de la France. Et quand on regarde les seuls médicaments, en gros, la France, elle est là aussi, c'est à peu près 2%, j'ai simplifié, les chiffres varient un petit peu, donc c'est le sixième de nos dépenses de santé. Donc on est là aussi parmi les champions, même s'il y a des pays qui consomment plus, bien sûr les États-Unis, et il y a... Un tout petit biais dans cette diapositive, c'est que c'est par rapport au produit international, un produit PIB, pardon. Et donc, il y a des pays très riches et d'autres très pauvres. En pourcentage, ça peut varier de façon assez importante. Alors, il y a une donnée qui est fondamentale depuis, donc, sur ce diagramme qui commence en 85, qui se termine en 2010. Il y a pour la plupart des pays une augmentation très importante. Vous voyez, la France que je vous citais, donc on est passé de près de 1% à autour de 2%. Donc, il y a une augmentation considérable des dépenses de médicaments. Alors certains pays, il y a l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, vous voyez, ils ont augmenté beaucoup moins que nous alors qu'ils sont dans une société proche de la nôtre. Alors pourquoi les dépenses de médicaments augmentent? En fait, il y a deux grandes raisons. Et quand vous avez proposé l'exposé, vous pensiez essentiellement à la première. C'est que les nouveaux médicaments dont on a parlé ce matin, ils sont extrêmement coûteux. Ils sont coûteux pour plusieurs raisons. Ils sont issus donc de ce qu'on appelle les biotechnologies. Et ils sont réservés au départ à des maladies qu'on considère comme rares. Par exemple, il y a une maladie qui s'appelle l'hémoglobinurie nocturne paroxystique où le traitement annuel, c'est 400 000 euros. C'est vraiment très coûteux. Il y a quelques centaines de cas. Et puis, des maladies moins rares, en particulier aujourd'hui dans les thérapeutiques du cancer, on a intégré ces nouvelles thérapeutiques et qui augmentent de façon considérable les coûts de prise en charge. Et il y a un deuxième secteur, mais qui est... actuellement encore certainement par le plus important, c'est qu'on a des médicaments qui ne sont pas extrêmement chers individuellement, mais qu'on prescrit, excusez-moi, à des millions de personnes, c'est le cas des diabétiques par exemple, et sur de très longues périodes, on prescrit 20 ans, 30 ans, 40 ans, et le coût à la fin des médicaments pour ces pathologies devient considérable. Et un certain nombre de maladies comme le cancer, on mourait très vite il y a quelques années, aujourd'hui ce sont devenus des maladies chroniques, on survit même avec une maladie très avancée, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, donc ce sont des maladies chroniques dont les traitements sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, coûteux, leur prise en charge. Alors, je me suis limité à la France pour le top 10 des médicaments les plus coûteux. Et là, c'est ceux en ville, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. On retrouve les deux types de médicaments. Donc, les médicaments de tout le monde. Donc, il y a forcément des hypertendus, des diabétiques dans cette assemblée où il y en a eu tout à l'heure. Vous voyez, donc... Ces médicaments, on les retrouve ici, et il y a des gens qui ont mal à la tête. Donc, vous voyez, le Doliprane, vous voyez, c'est considérable. Tout le monde en prend, et la Sécu rembourse. Et il y a des médicaments pour le cholestérol, des médicaments pour le diabète, et des médicaments pour l'asthme, donc des maladies extrêmement fréquentes. Et puis il y a les maladies, donc ils sont extrêmement coûteux. Donc il y a l'Humira qui est un champion. Donc cette année-là, en 2012, il était le deuxième des coûts pour l'assurance maladie en prescription externe. Ce sont les anti-TNF, ce sont les molécules qui sont utilisées dans les maladies inflammatoires chroniques de beaucoup d'organes et des médicaments qui sont utilisés. Celui-là, par exemple, c'est l'EPO que tout le monde connaît pour les cyclistes et l'insuffisance rénale chronique. Et donc, c'est les médicaments qui représentent, vous voyez, c'est en millions d'euros, si mes chiffres sont exacts, donc tout à fait considérable, avec une variation, vous voyez, d'une année sur l'autre, qui est relativement importante, puisque, pour par exemple, le traitement de la DMLA, de 26% de plus. Alors, quand on prend par classe thérapeutique au niveau du monde, vous voyez que les anticancéreux sont les premiers, et qu'il y a les médicaments comme les antiviraux, en particulier de la maladie SIDA, les médicaments de la psychiatrie, donc qui sont des médicaments extrêmement prescrits à travers le monde. Alors, la consommation des médicaments pour les pathologies les plus fréquentes a augmenté de façon considérable entre l'année, vous voyez, si c'est 2000-2009, pour tous les pays de l'OCDE, et en particulier pour la France. Et contrairement à ce qu'on vous dit, on n'est pas forcément les champions du monde en consommation. Donc, vous voyez, pour la France, on passe... les chiffres ici, c'est la première 2000-2009, donc pour tout le monde, ça augmente. Et certains, vous voyez, la Finlande, ça double pour les antidiabétiques. Alors, il y a plein de raisons. C'est que le diabète est une épidémie mondiale et que, peut-être pas encore ces années-là, mais demain, on augmentera encore on abaissera le seuil du diabète. On a commencé à le faire. Tout le monde sera diabétique, tout le monde est hypertendu et tout le monde sera hypercholestérolémique. Alors, le cholestérol, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est la même chose, c'est considérable. Vous voyez, le cholestérol, en la moyenne, c'est 3 fois entre 2009 et 2010. Et ça, c'est lié au fait que le fait d'abaisser le cholestérol, même chez les sujets qui ont un cholestérol normal, est pensé comme ayant un effet bénéfique sur la santé. Et je me pose quelques questions sur le sujet. Alors, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, c'est un peu compliqué et j'ai essayé de, en regardant sur Internet mes informations, ce qu'on peut entendre, quels sont les sujets qui font polémique. Le premier, bien sûr, c'est, vous dites 500 000 euros pour un malade, mais ce n'est pas possible. Le budget de la Sécurité sociale, qui en France rembourse à peu près tout, ne va pas tenir. La deuxième question, est-ce que c'est justifié qu'un médicament coûte aussi cher, 500 000 euros pour un an? Mais bien sûr que non, ce n'est pas possible. Vous dites non, sauf quand vous avez la maladie. Et est-ce que le bénéfice en termes de gain de santé est en rapport avec le coût? C'est une question extrêmement difficile à répondre aussi. Je pose beaucoup de questions, je ne donne pas de réponse définitive, je m'en garderai bien. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas forcément la légitimité pour le dire. Et c'est l'affaire de tout le monde. Alors, certains médicaments ne sont-ils pas trop prescrits? On l'a abordé tout à l'heure, et je l'ai abordé actuellement en parlant des hypocholestérolémiants. Et qui est responsable de ces dépenses, etc.? Est-ce que les laboratoires ne tirent pas un peu sur la corde en vendant ces produits aussi chers? Bien sûr, tout le monde les accuse, et peut-être ils ont raison. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour demain? Est-ce que le système va exploser en d'autres termes? Ma réponse, je suis assez optimiste, je doute fort qu'il explose, du moins comme on l'entend aujourd'hui. Alors, pour la sécurité sociale, je ne veux pas m'attarder dessus parce que c'est un peu compliqué et tout le monde a son avis. Je veux simplement montrer sur ce diagramme que, contrairement à ce qu'on dit, c'est qu'on est irresponsable, c'est que, bon, l'ONDAM, laissons passer les termes très techniques, je les ai bannis, c'est les prévisions de budget. Tout simplement pour vous montrer que la sécurité sociale, maintenant, dont le budget a priori contrôlé, il dépasse régulièrement, mais qu'il y a des efforts quand même qui fait que on a bien compris qu'il n'était pas pensable que le budget de la sécurité sociale augmenterait régulièrement jusqu'à plus être pouvoir. On a déjà suffisamment de dettes, donc il y a un effort qui est fait, même s'il est insuffisant, qui laisse à penser qu'on ne va pas rembourser indéfiniment des millions de médicaments qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Je suis sûr que ça ne se fera pas. J'atteste également pour le dire, c'est que c'est le sentiment général des Français. Donc là, c'est une enquête du Figaro qui vous est montrée. La majorité des Français sont d'accord pour dire qu'il faut contenir le déficit de la sécurité sociale, donc 80%. Si M. Hollande avait ces sondages aussi positifs, il serait très, très ravi. Et ils pensent également aux générations futures. Donc, c'est, en fait, ils ont été bien conditionnés. C'est comme le médecin, quand il explique l'effet du médicament qu'il en attend, eh bien, on arrive à avoir le même résultat, à faire penser le malade comme le médecin. Et, bien sûr, les Français sont très attachés à éviter la privatisation. Alors, la question, est-ce que le coût des médicaments très coûteux est justifié? Et la question subsidiaire, pourquoi ne fabriquer que des médicaments coûteux? Vous avez compris, tout simplement parce que c'est ce qui rapporte le plus à l'industrie. Mais je vous rappelle que si l'industrie ne fait pas de bénéfices, elle ne fabriquera pas de nouveaux médicaments, elle ne veut pas réinvestir, et donc on se mord un peu la queue, car tout le monde ce matin, quand il a parlé des médicaments, il n'a parlé que de l'industrie. Parce qu'en pratique, c'est essentiellement l'industrie qui fabrique les nouveaux médicaments. Donc on peut dire tout le mal qu'on veut d'elle, mais sans elle, on serait quand même assez démunis. Alors, là, c'est ce qu'on trouve donc, sur Internet. Je dis, c'est comment j'ai fait. Donc, il y a des questions qu'on retrouve régulièrement dans les différents journaux, sur Internet. Il y a la question qui se pose de l'éclatement donc, du système de santé et de remboursement. Et je vous disais tout à l'heure que l'industrie pharmaceutique, donc réorienter donc, ses efforts de recherche et développement, ça veut dire, vers des produits coûteux issus des biotechnologies. Et elle se réoriente également vers des produits où la prise de risque est limitée. Donc, j'ai pas pu citer tout à l'heure, quand quelqu'un parlait des médicaments, quand on les teste, il y a, je le dis à quelques-uns, le baclofène là, dont on a parlé, qu'on a trouvé par hasard, l'effet anti-alcool, contre l'alcoolisme. Et donc, il y a une polémique parce qu'il y a une étude en France qui a été menée, parce qu'il faut mener les études, ce produit-là, pas l'AMM. Et donc, il y a des gens qui meurent avec ce médicament-là. Quand on a les formes les plus graves d'alcoolisme, il y a une surmortalité qui est considérable. Donc, quand on va étudier ce médicament, il faut accepter que des malades qu'on teste vont mourir. Sinon, on va tester le médicament que chez des gens qui ont des petites maladies. Et l'information qu'on va retenir de l'étude ne sera peut-être pas très pertinente. Ça marchera peut-être chez les petits buveurs, mais chez les grands buveurs, ça ne servira à rien. Alors, sur le plan polémique, donc, on trouve sur Internet largement aussi des pamphlets, parce qu'on peut les appeler comme ça, contre l'industrie pharmaceutique. On dit, vous voyez, 800 millions de dollars, voire 1 milliard, pour développer un produit. Donc, on vous a montré ce matin une partie qui est faite. Donc, c'est des diagrammes proposés par l'industrie pharmaceutique, ceux-là. Et à titre personnel, on peut considérer que j'ai des conflits d'intérêts avec l'industrie et les molécules dont je parlerai tout à l'heure. Vous voyez, donc on vous explique qu'au départ, on a 1 million ou 100 000 molécules et qu'il n'y en a qu'une qui va aboutir à un médicament. Et on vous a montré tout à l'heure aussi que les durées pour tester ces médicaments, les contraintes réglementaires, aboutissent à des coûts qui sont considérables. Et je laisse passer là-dessus. Et qu'il y a toute une série, donc vous l'a montré aussi, de tests qui sont faits qui aboutissent. Là également, il faut recruter des T-5 qu'il faut payer, les malades, il faut payer les laboratoires, les médecins, les hôpitaux, etc. Donc il y a des frais considérables et qui font que, en plus, il y a un contexte sécuritaire de plus en plus grand, il y a des coûts particulièrement élevés et on vous l'a également effleuré. Le brevet, c'est-à-dire c'est la période pendant laquelle le laboratoire qui a fabriqué le produit va pouvoir exploiter seul le produit et en récupérer les bénéfices. C'est avant les génériques. Et selon la durée de mise au point du produit, ça peut être une durée relativement limitée. Vous avez évoqué une dizaine d'années. Et donc, au bout de 10 ans, les bénéfices, donc les blockbusters qu'on a vus tout à l'heure, ils étaient en premier, ils tombent, ils disparaissent complètement de la liste des médicaments qu'ils rapportent. Donc, ils ont une nécessité de gagner de l'argent et très vite. Alors, est-ce que le bénéfice en termes de gain de santé est en rapport avec le coût ? Alors, pour certains médicaments nouveaux, donc le Glivec a été évoqué ce matin, c'est extraordinaire, c'est un médicament, les maladies ont bourré en quelques années. Aujourd'hui, on peut considérer, pour simplifier aussi pour l'image de 65, qu'on a une durée de vie qui s'approche de la normale avec un produit qui est quand même très coûteux à la longue. Je crois que c'est 30 à 40 000 euros pour le Glivec par an. Voilà. Est-ce que la réponse est clairement oui, tout le monde sera d'accord. Pour d'autres, et en particulier c'est le cas de la cancérologie, on peut avoir un coût considérable de nouveaux produits pour un gain de survie très limité. Alors, je vous ai montré ce tableau. Vous voyez ce qu'on dépensait pour un cancer du côlon avancé. Donc, il y a des métastases, etc. Donc, les gens, on leur donnait des médicaments qui ne marchaient pas très bien. L'évolution naturelle, ils vivaient 11 mois. En 2006, je n'ai pas mis 2013 parce que ça change tout le temps, pour une durée qui avait à peu près doublé de survie, le coût passait à 250 000 euros. Alors, le problème, c'est que ça ne veut rien dire. C'est quoi la survie ? Là, c'était 11 mois dans son lit, etc. Et là, c'est la survie sans progression. C'est-à-dire que le malade, on a fait le diagnostic. Au lieu d'être 3 mois après dans un lit agonisant, j'exagère un tout petit peu, là, il a une qualité de vie qui reste intacte beaucoup plus longtemps. Donc, il a gagné peut-être qu'un an, mais il a gagné un an avec une meilleure qualité de vie, donc proche de la normale. Alors, est-ce qu'on va accepter ce prix-là ? Donc, Bien entendu, si on fait une projection, on dit 500 000 euros avec 48 mois, donc je vous rappelle, en France, il y a à peu près 38 000 nouveaux cas de cancer du côlon par an. Ils n'ont pas tous métastatique, on voit bien qu'il y a un problème. Et donc, la France est un pays formidable. Les Français s'en rendent pas compte, mais il y a assez peu de problèmes. En France, on rembourse à peu près tout, et y compris les innovations thérapeutiques. Mais dans beaucoup de pays, donc je crois que ça vient du Canada, peu importe, il y a des pays où on se pose la question, ou en Angleterre, c'est pour ça que leur courbe ne monte pas autant, on ne va pas donner tous ces produits-là à tout le monde. Et on les réserve, par exemple, donc je vous en dirai tout un mot tout à l'heure, dans les solutions qu'on peut proposer à des cas particuliers. Donc, par exemple, quand on parle du Glivex, le similimiotrine, il y a maintenant, chez les gens qui sont en situation d'échappement, il y a deuxième, troisième ligne, et les produits de plus en plus coûteux. Donc, certains pays, comme l'Angleterre, réservent le traitement. Disons, on donne que la première ligne et pas la deuxième ligne, dans les conditions normales. Alors, le thème suivant, c'est certains médicaments ne sont-ils pas trop prescrits en dehors du traitement anticancéreux. Et donc, je vous ai fait un commentaire tout à l'heure sur ce fameux livre, le guide des 4000 médicaments, utiles, inutiles ou dangereux. Je crois que la question mérite d'être posée, parce qu'en France, on prescrit beaucoup de médicaments, et certains sont manifestement inutiles, peu utiles, ou ne mériteraient pas d'être remboursés, en tout cas. Et donc, il y a déjà une démarche qui est faite, et qu'il y a une théorie qui correspond à une réalité. C'est dommage que Mme Legrand n'est pas là. Je la rejoindrai totalement là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, dans les conditions, disons, de vie, etc., en particulier dans certains pays, où on a des comportements, notamment alimentaires, qui vont conduire à un excès de poids, à un excès de cholestérol, à un excès d'hypertension, et qu'on a l'impression qu'il y a un côté qui vous pousse à avoir ces comportements-là, donc tout le monde chez McDonald's, et de l'autre, pour vous vendre des produits qui vont faire baisser votre poids, baisser votre glycémie et baisser votre hypertension. Donc, il y a un beau mot anglais, le façonnage de maladie. Et cette stratégie, est-ce qu'elle est vraiment volontaire? J'ai quelques doutes, mais il y a une certaine réalité dans ce domaine-là. Alors, qui est responsable du dérapage? Parce que c'est, j'ai mis entre parenthèses, c'est le terme que tout le monde emploie. Il y a une volonté qui est commune, hein, je crois que c'est absolument tout le monde. Et le public, il peut dire qu'il est victime, mais il est aussi complice. Et en particulier, je vous ai donné, donc je rejoins là encore Mme Legrand, tout compte fait, vous lui transmettrez ces informations. L'épidémie de diabète qu'on observe dans les pays riches, elle n'est pas absolument inexorable. Dans les pays pauvres aussi, quand ils s'enrichissent, malheureusement, pire que chez nous encore. Et je vous donne un exemple ici. Si vous êtes prédisposé, parce que malheureusement, il y a des gènes, des maladies auxquelles on n'évitera pas tout à fait, mais qu'en fonction de l'activité physique que vous allez avoir, vous diminuez le risque par deux, voire encore plus, en ayant une activité physique importante. Si vous êtes programmé pour être diabétique, si vous faites des marathons toutes les semaines, le diabète n'apparaîtra pas. Et si vous restez mince. Donc, ce n'est pas si facile à dire, facile à faire. Et bien sûr, en termes de coûts pour la santé, pour l'économie, on pourra dire que c'est très efficace et redistribuer l'argent qu'on n'utilise pas pour la santé dans d'autres œuvres, par exemple sociales, qui seront à la longue bien plus efficaces pour la santé que de prescrire des hypocholestérolémiants. Alors, quelques mots pour finir sur les solutions. Et là aussi, les solutions, elles dépendent du choix qu'on va faire, qui est un choix politique. Donc, en France, on vote le budget de la sécurité sociale, mais les Français, ils sont aussi, donc on leur demande leur avis, c'est un forum citoyen. Et donc aujourd'hui, c'est 12%, les États-Unis 18%. Il y a des gens qui projettent que si on laisse faire les choses, ce sera 30% du PIB la santé. Clairement, j'ai quelques doutes là aussi, parce qu'on se rendra compte qu'à un moment donné, ça va être contre-productif. Et donc, inversement, donc chacun a le droit de faire le choix. En France, on a une notion très, on privilégie la santé, quoi qu'il arrive. On va laisser mourir les gamins dans la rue, on ne leur donnera pas à manger, mais on va traiter tout le monde à l'hôpital, dans un CHU. Voilà. Donc je vous donne des exemples. Hein. Un SDF dans la rue, moi j'ai vu un SDF, il est resté 6 mois à l'hôpital, après on le rejette dehors, mais bon, c'est des comportements qui sont extrêmement critiquables en termes même de santé, parce que ce n'est pas un bon choix. Alors, il y a les solutions un peu simples, le générique, donc on vient de vous en faire un excellent exposé, et donc moi je vous donne le chiffre, vous voyez, par rapport aux Allemands que tu as cités tout à l'heure, vous voyez, 32-52, donc là je crois que c'est je ne sais pas quelle est l'année, mais enfin c'est récent, Donc effectivement, on peut faire des efforts en sachant qu'actuellement, les médicaments génériqués, ce n'est peut-être pas ce qui coûte le plus cher. Alors, il y a l'équivalent de ce que je vous disais, les médicaments qui coûtent 40 000, 400 000 euros. C'est des médicaments pour lesquels on va fabriquer des génériques, ici qu'on appelle des biosimilaires. Et les projections sont qu'on va faire des économies, entre guillemets, qu'on dépensera moins que si on avait le médicament initial, jusqu'à 20 millions d'euros d'ici 2020. Donc c'est très optimiste. Il faudrait que, bien sûr qu'on impose les biosimilaires à tout le monde, mais ils arrivent sur le marché. Et donc on fera des économies en sachant que de nouveaux médicaments coûteux vont apparaître et que la solution n'est pas tout à fait trouvée. Alors il y a des pharmaciens, j'espère, ici. Leclerc, à titre personnel, quand vous regardez le budget du paracétamol, on peut imaginer tout à fait qu'on ferait des économies considérables en laissant Leclerc vendre des produits qu'il vendrait forcément moins cher que le pharmacien, parce que c'est son rôle. Mais vous avez vu les prix, c'est le cinquième paracétamol. Il y a d'autres stratégies qui ont été proposées dans d'autres pays, c'est le remboursement conditionnel pour ces produits très coûteux. Ça veut dire que le médicament pour une chimiothérapie de deuxième, troisième ligne, vous ne le rembourserez à l'hôpital, par exemple, que s'il le fonctionne. Bon, ces propositions sont effectivement tout à fait révolutionnaires. Et je vois mal comment on le vendra à notre public en France. N'empêche qu'il y a des gens qui se posent la question, comment on va répondre? On ne traitera pas tout le monde à 500 000 euros. Alors, responsabiliser les patients, donc cette diapositive elle va être impopulaire. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, les Français, vous étiez troisième. Nous étions troisième. Mais moi, je ne suis pas français. Et là, ici, c'est la part auquel participe, disons, de sa poche, entre guillemets, le patient. Et vous voyez, et parmi la participation directe, même si c'est de plus en plus cher chez nous, on est quand même parmi les derniers. Donc, quelque part, les Français, dans le terme de santé, sont très bien traités. Et les étrangers ne s'y trompent pas, car ils viennent de façon extrêmement abondante chez nous. Alors, l'État est extraordinairement, on n'en parle pas non plus, il est responsable aussi. Je vous rappelle qu'en France, c'est lui qui décide des prix des produits. Alors effectivement, et je vous rappelle aussi que contrairement à ce qu'on pense, les prix des produits les plus innovants, là, ils sont à peu près identiques dans les différents pays. Semble-t-il, je n'ai pas vérifié. Et donc, il y a quelquefois des comportements qui sont critiquables. Bon, c'est l'histoire du traitement d'Ademela, récemment de la prescription à nouveau à l'hôpital du fer intraveineux, donc qui va coûter très cher. Donc, j'ai d'autres exemples. Alors, les médecins, je les ai mis en dernier, parce que les médecins, pendant très longtemps, ont eu un discours, la santé n'a pas de prix, c'est, je m'en fous, trouvez-moi l'argent pour traiter les malades. À titre personnel, et c'est peut-être pour ça que je suis là, j'ai toujours pensé que c'était pas très intelligent de raisonner comme ça, pour la raison que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un mauvais investissement pour la santé. Alors, je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, tu as dit que je m'occupais des maladies inflammatoires. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc, je m'occupe des maladies inflammatoires. On a à notre disposition toute une série de médicaments. Et c'est ici, on dit step up en anglais, c'est du plus simple, entre guillemets, ou du plus classique au plus moderne, ou du plus grave pour la chirurgie. Et il y a des prix en face. Donc, vous voyez, les immunomodulateurs, 330 euros par mois, donc c'est mes calculs personnels. Quand on donne les médicaments du type Humira, qui était en deuxième tout à l'heure dans la liste des médicaments coûteux, selon la dose qu'on donne, c'est de 20 à 30 000 euros par mois, donc c'est comme par an, pardon. Et quand on hospitalise, donc c'est 1 000 euros. Alors, on ne peut pas comparer les chiffres, je vous ai donné à titre indicatif, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais dans la stratégie actuellement d'un malade qu'on me confie, je travaille comme ça, donc excusez-moi. Je prescris, et un centre de mes collègues aussi, d'abord ces médicaments, ceux-là, je n'ai pas donné le prix parce qu'on prescrit peu de temps, ceux-là, et si ça ne marche pas, on prescrit cela, et si ça ne marche pas, on prescrit la chirurgie. La chirurgie, bon, les malades, ils ne sont pas très... ce n'est pas ce qu'ils réclament en premier. Il y a une question qui se pose, même en termes d'efficacité médicale, est-ce que changer de stratégie, donc passer à ces produits d'emblée très coûteux, ce n'est pas plus efficace que de faire le step-up qu'on a montré tout à l'heure, en disant, tout compte fait, ces malades, ils vont répondre mieux, ces médicaments sont un peu plus efficaces, en étant beaucoup plus chers, et est-ce qu'en les traitant très tôt, c'est ce que beaucoup de gens pensent, par ces médicaments, même si c'est très cher, on va réduire le risque de complications, de handicap ultérieur, et peut-être être plus efficace, même en termes d'argent, on fera peut-être plus d'économies en les traitant d'emblée par le produit cher, qu'attendre qu'ils se soient dégradés, alors qu'ils répondront moins bien. Et quand on fait des projections par rapport à ce qu'on faisait il y a quelques années, donc pour la maladie de Crohn, donc oui, la chirurgie, on opère de moins en moins, et on considère que les nouveaux traitements qu'on a introduits font qu'on opère de moins en moins, et c'est un progrès. Parce que bien entendu, la chirurgie ne guérit pas ces malades. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis. Et vous voyez, le moment où ils vont recevoir les médicaments, les biothérapies, là, qui coûtent des milliers d'euros, eh bien, c'est de plus en plus tôt et de plus en plus de malades. Et donc, l'évolution prévisible, il y a une pression très, très forte, y compris des malades qui réclamaient ces produits, pour le faire. Alors, pour conclure, je voudrais dire quand même être relativement optimiste, même si ce n'est pas dans ma nature. Les médicaments coûteux représentent un progrès majeur en termes de gains de santé et de qualité de vie. Sinon, ils ne seraient pas sur le marché. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Et qu'il y a peu de chances que leur utilisation diminue dans les pays riches. Alors, jusqu'à quel prix? Je ne peux pas répondre. Là aussi, je pense, à titre personnel, qu'il y aura forcément une régulation. Que, par exemple, est-ce qu'il y a une médecine à plusieurs vitesses? On ne peut pas imaginer que le coût de 400 000 euros, s'il y a qu'à... Il y a très peu de gens qui pourraient se le payer, donc le laboratoire ne le vendrait plus, etc. Donc ça ne marche que parce qu'il y a un système de remboursement très actif. Donc il y aura forcément une régulation et que les prix vont baisser, bien que si le problème, c'est le problème de la santé en général, se posera toujours en termes d'augmentation de coûts. Alors, il n'est pas exclu, mais même s'il faut toujours se méfier à les économies à long terme, c'est ce que les médecins disent aux décideurs, mais quand les malades vivent plus longtemps, ils finissent par coûter plus cher, quoi qu'on fasse, mais... Objectivement, il y a quelques données qui suggèrent qu'il y a les malades sont moins hospitalisés, il y a moins de chirurgie. Et l'hospitalisation, je vous rappelle, c'est un coût considérable dans les coûts de santé. Et je vous rappelle aussi qu'à l'hôpital, le coût principal, c'est le personnel qui représente les deux tiers. Donc si vous voulez faire des économies aujourd'hui, ce n'est pas forcément sur les médicaments, c'est sur le personnel. Si vous voulez vraiment faire des économies, non mais je vous dis objectivement, voilà, c'est un décideur. C'est pour ça que ce n'est pas si simple de faire ça. Alors, est-ce que demain, il y aura des nouveaux médicaments peu coûteux? Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, on n'en prend pas trop le pas, parce que c'est pas très rentable, et que ces médicaments, les biotechnologies, rapportent beaucoup d'argent, et que l'industrie n'a pas trop intérêt à les fabriquer, sauf si on change les règles du jeu. Alors, je voudrais finir aussi, et c'est très important, donc les médicaments, c'est bien, et donc, tout compte fait, j'étais tout à fait d'accord avec l'écologiste. Si on investissait beaucoup plus sur la prévention, à ce moment-là, on aurait un effet bien plus important sur la santé qu'avec ces thérapeutiques très coûteuses. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, Philippe. Eh bien, je vous invite, Mme Grassin. Et puis, Monsieur Chevalier, à nous rejoindre à la tribune pour répondre aux questions. Alors, moi, je vais faire une synthèse extrêmement courte. Tout d'abord, je vais remercier les trois conférenciers de la table ronde. Le quatrième conférencier est déjà parti, n'est-ce pas? Et pour dire déjà que ils ont extrêmement bien répondu finalement au cahier des charges qu'on leur avait imposé, ce qui n'était pas forcément simple, et vraiment je trouve ça tout à fait intéressant. Donc bon, je crois qu'il faut qu'on lance le débat. Moi, ce que je retiens très brièvement, c'est qu'effectivement sur internet on en discutera, mais je crois qu'il faut faire un petit peu attention à ce que l'on achète. Si on doit acheter, c'est pas une obligation, c'est clair. Et ensuite il y a une discussion, et c'est vraiment entre les génériques et puis les médicaments dits coûteux c'est une discussion de fond. Et évident qu'on va on l'aborde ici, il n'y a pas de réponse toute faite, c'est pas simple, ça pose des questions aussi en termes d'investissement. On a évoqué aussi les grosses biotech qui produisent ces molécules, le fait que ces médicaments soient chers fait qu'ils peuvent investir derrière aussi. Donc je crois que ça pose un certain nombre de questions, et je crois que je vais plutôt vous laisser la parole pour que l'on lance ce débat. Est-ce que vous avez des interventions à faire? Marie-Paul?
Bon, ben, je rebondis sur ce que vous avez dit à la fin, c'est que les médicaments, alors en tant que les médicaments, ça représente en fait très peu dans le budget de la sécurité sociale, c'est 2%. Alors est-ce que c'est les médicaments qu'il faut, le budget des médicaments qu'il faut, on peut se poser la question, est-ce que c'est le budget des médicaments qu'il faut diminuer, ou est-ce qu'il y a d'autres coupes qu'on pourrait faire ailleurs.
J'ai répondu tout à l'heure en faisant le commentaire sur les coûts de l'hôpital. Il faut forcément, à un moment donné, si on veut réguler, agir sur les endroits où on dépense le plus. Donc forcément sur l'hôpital. Et il y a une politique, si vous voulez, qui ne me paraît pas très bien engagée, notamment en France. Dans notre hôpital à Poitiers, on construit des locaux, des lits, c'est aberrant. Je vous dis, ces molécules, le but de ces molécules, c'est que les gens sortent de l'hôpital. Ma philosophie à moi, c'est que le malade doit être chez lui et pas à l'hôpital. Voilà. Mais ce n'est pas la philosophie de tout le monde. Et parce que l'hôpital génère beaucoup de coûts et peut-être n'est pas aussi efficace qu'on le croirait. Non, alors que les médicaments ont une efficacité extraordinaire. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on va agir sur l'endroit où on est le plus efficace. Les médicaments doivent continuer à se développer, et notamment ceux-là. Vous comprenez ? On a fait des progrès qui sont considérables depuis 15 ans. Et quand on a, je veux dire, malheureusement, mon âge, ça se voit à l'œil nu. Vous comprenez ? Dans certains médicaments, bon... Donc, il n'y a pas lieu de penser qu'il faille... Il faut réguler, parce qu'il y a un moment, ça tout va exploser. Mais il faut jouer sur tous les éléments, et en particulier... l'hôpital ou réorienter, par exemple, la santé, on ne va pas baisser les prix, on ne va pas baisser les coûts, ce n'est pas possible, mais on va réorienter, peut-être investir sur des maisons de santé, que sais-je. Vous voyez, l'hôpital tout seul, c'est, bien sûr, il coûte de plus en plus cher, et on traite, on fait un petit peu de tout, on fait du gardiennage, il y a une mauvaise gestion. Il y a une mauvaise gestion parce qu'il y a une vache à lait qui donne sans compter. Voilà. Et dans les autres pays, pourquoi ils font moins, c'est qu'il y a une régulation qui se fait et qu'ils mesurent de temps en temps l'efficacité, ce que nous, on ne fait pas.
Une question aussi, finalement, à mes collègues, mais on a parlé des génériques, vous avez donné beaucoup d'informations sur ces génériques, mais pourquoi prescrire des génériques? Ça a été évoqué tout à l'heure en disant, finalement, le but du jeu, c'est de faire baisser le prix des princeps, au bout du compte. Oui. Okay. Finalement, la question sous-jacente, et je souhaiterais avoir votre avis, parce que c'est que les molécules princeps ont coûté cher en investissement recherche, ont coûté cher en brevet, en entretien de brevet, en développement. On a fait des études cliniques ce matin, et les princeps n'ont pas ces contraintes. Et finalement, si on passait que au générique, ne risque-t-on pas de tarir une source finalement d'innovation importante?
C'est vrai qu'on a constaté avec l'arrivée des génériques, certaines molécules princeps sont disparues. Il y a quelques injectables qui ne sont plus commercialisées depuis que les princeps sont là, que depuis les génériques sont là. En revanche, c'est vrai que ça crée quand même une concurrence, une émulation entre les différents labos. Et à ce moment-là, les molécules princeps se baissent aussi. Donc, on arrive à des coûts quand même moins élevés sur des traitements qui sont souvent des traitements chroniques. Hein, pour les génériques, c'est surtout ce que tu disais, ils sont beaucoup moins chers. Mais c'est vrai que c'est sur des traitements très, très longs. Donc, pour les diabétiques, l'hypertension, etc. Donc là, le coût, il est sur des longues durées. Et ça a permis de baisser certains prix. Mais en revanche, il ne suffit pas de dire « je prescris une statine, un médicament contre le cholestérol en générique, tout va bien ». On se pose d'abord la question « est-ce que le patient, il a besoin de ce médicament ?» C'est la première chose, tu l'as dit. Je crois qu'il y a sûrement des prescriptions un peu trop faciles maintenant, actuellement, des statines. Et donc, à ce moment-là, avant de passer au générique, on réfléchit sur le bien fondé du médicament. Les médicaments aussi contre la douleur, on a tendance à dire on prescrit le générique, tout va bien, mais non, il faut d'abord réfléchir, est-ce que le patient il a encore besoin du traitement contre la douleur? Et ce qu'on essaie aussi de faire beaucoup maintenant, c'est des réévaluations de traitement et savoir arrêter un traitement. Mais pour arrêter un traitement, il faut que le patient soit aussi convaincu qu'on peut arrêter le traitement. Alors c'est pour ça que parfois on utilise un peu des subterfuges. Tout à l'heure vous avez parlé des placebos et je crois que vous en avez parlé ce matin aussi. Le patient qui vous dit j'ai mal, je ne peux pas arrêter l'antalgique, mais quelquefois on utilise un placebo et s'il a plus mal, c'est qu'il a plus besoin de l'antalgique. Donc là je crois qu'il faut aussi que le patient joue le jeu et de temps en temps dise je tente d'arrêter ce médicament. Alors, on ne peut pas arrêter tout et n'importe quoi, mais c'est vu avec le médecin. J'arrête ce médicament et je vois comment je vais. Parce qu'on a un peu trop tendance à se sécuriser en prenant une petite pilule le matin qui ne sert pas toujours au bout d'un certain temps.
Oui, sur le sujet des génériques, toujours. Il y a une enveloppe fermée. Le Dr Beau a évoqué l'objectif national des dépenses d'assurance maladie qui est voté chaque année par le Parlement. Cette enveloppe est fermée donc, et elle croît d'environ 2% chaque année. Et il faut arriver à dégager des ressources pour favoriser la recherche. Donc le but, c'est que les médicaments qui ont été amortis par l'industrie coûtent moins cher et libèrent des moyens pour l'innovation et pour la création de nouvelles molécules. À partir de là, jusqu'où peut-on aller, effectivement, là, moi, je n'ai pas de réponse non plus. Mais il faut savoir que le comité économique des produits de santé reçoit une lettre... le mot m'échappe. Chaque année, les ministres reçoivent leur lettre de... leur lettre de cadrage. Donc le comité économique des produits de santé reçoit chaque année une lettre de cadrage qui est co-signée de mémoire par le ministère de la Santé, oui, par le ministère de l'Économie et des Finances, par le ministère de l'Industrie. Donc vous voyez, il y a de nombreux facteurs qui interviennent dans la détermination du prix des médicaments et l'orientation vers quelle recherche on veut pousser l'industrie pharmaceutique.
Est-ce que le vrai problème, la solution qu'on pourra apporter à cette problématique de dépenses de santé serait de peut-être réduire le nombre de malades et, en passant par la case prévention au départ, donc faire participer le patient et tous les citoyens et, voilà. La vraie solution serait peut-être la prévention.
C'est la dernière ligne de ma dernière diapositive, hein, bien sûr. C'est la solution. Le problème, c'est que de décider comme ça, on peut décider le budget à la sécurité sociale qu'on ne respecte pas, parce qu'en France, on ne respecte pas les budgets. Voilà, bien entendu. En sachant que, il ne faut pas rêver non plus, plus le temps passe, plus la santé a pris une importance considérable et plus les besoins augmentent. Quand on voit ce qu'on entend partout, les nouveaux malades, ce qu'il faudra faire pour les nouveaux malades, tout ce qu'ils demandent, ça va coûter de plus en plus cher. Si vous supprimez le coût des médicaments, vous êtes remplacé par autre chose, c'est-à-dire le plan autiste, par exemple, c'est à la mode. Et pourquoi on ne s'occupe pas de tous les autistes? Pourquoi on ne fait pas des centres d'autistes dans chaque département? Vous voyez, donc il y a une demande, qui est une pression qui est tellement forte que la question de la régulation se pose régulièrement. Et que tout le monde voit, parce que assez souvent, la France, elle est gérée par on ne prend pas la décision de. Par exemple, je n'ai pas parlé des aspects très techniques du remboursement des médicaments coûteux. Voilà, qui effectivement, on s'est donné, bon, je ne sais pas si c'est le lieu, c'est un peu compliqué, j'ai enlevé tout ce qui était technique. Il y a, pendant un temps, si vous voulez, le budget, je vous ai dit 1 000 euros une journée d'hospitalisation. Vous comprenez bien que certains médicaments, donc, les maths qui viennent dans notre service, je leur prescris un médicament qui coûte 2 000 euros. Donc si on fait l'hôpital, s'il dépense 2 000 euros, et qu'on ne lui redonne que 1 000 euros, il va être déficitaire, donc ça ne va pas marcher. Donc il y a un système qui fait que ces médicaments, ils sont considérés en sus. Il y a une dotation, on leur donne de l'argent pour pouvoir les acheter. Il y a une régulation qui peut se faire à ce niveau-là. Et les prescripteurs, ils seront obligés de dire, attendez, ben, on me l'a fait hein, au tout début, là, la première, je suis passé devant un tribunal pour prescrire la première fois le Remicade, je m'en rappelle très bien. Non, mais c'est à peu près ça. C'est, voilà. Donc pour justifier, on m'a dit, vous avez le droit de traiter 10 malades. Donc, il y a un moment donné, j'ai traité 11 malades. Voilà. Et on m'a dit, vous allez faire une injection. Donc, quelque part, non, mais c'est possible. On l'a fait, donc je suis... C'est pas si grave que ça. Il y a des possibilités de régulation. Voilà. Mais il faut, à ce moment-là, que le décideur assume la responsabilité. Donc, le décideur, c'est celui qui donne l'argent. Il a tous les droits. C'est lui qui a l'argent. Mais il faut qu'il assume la décision. Nous, les médecins, de temps en temps, on est un petit peu délicat. Quand vous allez dire traiter 10 malades, qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous allez prévoir? Et surtout, si vous avez un recrutement qui est abondant, ça n'a aucun sens. Voilà. J'ai accepté, bien entendu, je n'avais pas le choix. Et j'ai été jugé, parce que vous parlez de commission toujours, je me rappelle très bien, il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient compétents pour juger. Dans la, voilà. Bon. Et après, c'est pas si simple que ça. Il y a, la régulation, elle se fera forcément. Est-ce que vous n'avez pas mis un endroit, si vous le mettez là, vous ne le mettez pas ailleurs, quand même, parce que le budget n'est pas extensible. Donc on est en responsabilité collective. Moi, si on me dit qu'il faut réguler, ça ne me pose aucun problème. Voilà. Mais
moi, juste, je voulais reparler un peu de la prévention, parce que c'est vrai que c'est un point important et qu'on dit qu'en France, on n'est pas très bon sur la prévention. En revanche, il faut quand même s'en voir que quand il y a des campagnes de prévention qui sont organisées, par exemple par la mammographie chez les femmes ou le dépistage du cancer du côlon, mais le taux de personnes qui profitent de ce dépistage est finalement très faible. Parce que je crois qu'on a un peu la peur de la maladie et qu'on se dit, oh là là, je ne vais pas passer de mammographie. Des fois, qu'on me trouverait quelque chose. Mais c'est vraiment dommage parce que là, c'est une chance que l'on se donne. Hein, parce que même si on vous trouve un cancer du sein débutant, on sait que ça se soigne très, très bien. Donc là, je crois que la prévention, oui, mais à condition que chacun joue le jeu. C'est comme la formation et l'information des patients sur les médicaments. Un patient qui va voir son médecin et qui repart avec un médicament ou pas de médicament, c'est le médecin qui n'est pas bon. Et le malade dit, on ne m'a pas pris en compte, on considère que je ne suis pas malade. Donc je crois qu'on a toute une éducation à tous les niveaux pour que chacun accepte de dire, ben, je peux être très bien soigné, parfois mieux soigné avec deux médicaments sur ma prescription qu'avec huit sur la même prescription. Et la prévention, c'est pareil, il faut que nous jouions tous le jeu.
Oui, je voulais poser une question. Oui, je voudrais poser une question plutôt qu'en simple citoyen. Donc on comprend bien les dangers d'acheter des médicaments sur Internet. Là, on est plutôt sur de la fraude, des produits frelatés, ainsi de suite, et sans contrôle. On aurait pu peut-être parler aussi des produits qui sont hors AMM dans le pays commandé. Hein. Il y a des gens qui achètent des produits qui ont une AMM dans un pays et bon, quid de ça. Bon, ça, c'est une autre chose. Vous avez parlé des génériques. Effectivement, s'il y a la nécessité de parler de génériques, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des suspicions dessus. Et effectivement, on communique dessus. Peut-être que l'erreur a été faite au début sur la communication des génériques. Ça, c'est une autre histoire. On parle du coût des médicaments. Effectivement, bah là aussi, c'est jusqu'où on est capable de mettre... Ah, c'est du temps homme contre un prix, quelque part. Donc, jusqu'où on est capable d'aller. Mais je crois que vous avez bien développer ça, mais quid du prolongement marketing plus ou moins masqué, alors là je mets des guillemets parce que je ne sais pas s'il y a des gens de l'industrie pharmaceutique de certains médicaments, je vais en citer deux, hein. Je vous l'ai dit ce matin, j'étais plutôt d'origine chimiste, alors je ne suis pas très à l'aise avec les noms de médicaments, plus avec les DCI. Je vois par exemple l'oméprazole et l'ésoméprazole. Je pense que vous le prescrivez régulièrement. Moi ça me surprend énormément, ce type de produit.
Tout y est. Ces médicaments sont des médicaments dont j'ai connu l'introduction sur le marché, de ces produits. Quelqu'un a parlé d'ulcère ce matin. C'est des produits miraculeux. Miraculeux en termes d'efficacité thérapeutique. C'est très important à dire. C'est tellement miraculeux que tout le monde en prend. Et dans les hôpitaux, quand les gens sont hospitalisés, il y a un malade sur deux qui, dans sa liste de médicaments, a un de ces médicaments-là. Tout à l'heure, quelqu'un en parlait, d'ailleurs à table... Il prenait du lansoprazole, je ne sais pour quelle raison, mais peu importe, je ne la dis pas aujourd'hui. Peu importe, voilà. Et extraordinaire, donc il y a un médicament donc, qui a été un blockbuster, qui était l'Inexium, qui est l'ésoméprazole, qui remplaçait l'oméprazole, qui a été aussi un blockbuster. Donc c'est un médicament qui a rapporté beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'on a changé? Si vous êtes chimiste, vous avez vu, pas grand-chose. Non, mais pas grand-chose, c'est un coût marketing extraordinaire. Et... quand on a présenté les résultats cliniques, honnêtement, quand j'ai vu, moi, les informations, j'ai dit, mais jamais ils vont accepter. On ne va pas donner une AMM à ce produit-là. Parce qu'on est passé de 95 à 98% d'efficacité. Bon, c'était plus cher. Parce que l'oméprazole tombait dans le domaine public. Eh bien, dans beaucoup de pays, en particulier en France, les responsables ont accepté de rembourser ce médicament plus cher que le précédent. Voilà. Il suffisait de remplacer l'oméprazole, je vous rappelle, c'était 20 mg. Et les oméprazole 40. Eh bien, vous donniez deux comprimés de 20, vous aviez, alors après, bon, vous aviez une efficacité. Bon, le gain était très peu. Mais ça a été. Tout le monde est responsable. Voilà. Et le public l'a utilisé largement. Et le laboratoire, que je finisse le bout, le laboratoire a vendu l'information aux médecins, aux prescripteurs, de façon tout à fait efficace.
Alors là, il y a le côté pharma.
Juste une petite précision quand même sur l'histoire de l'oméprazole, parce qu'elle est longue. Il y a beaucoup d'erreurs sur l'oméprazole dans ses choix, mais il faut quand même en noter cette histoire de dosage. L'oméprazole est sorti dans les autres pays à 20 et 40 mg, et c'était en France. Il y avait des suspicions, des précautions, etc., qui ont fait justement qu'on avait ces dosages qui n'étaient sûrement peut-être pas le meilleur dosage pour l'oméprazole. Donc c'est vrai qu'au niveau des décisions, il y a eu peut-être des ratés sur l'oméprazole.
Non, ce n'est pas ça la question qu'on m'a posée. Est-ce qu'on devait dépenser plus d'argent alors qu'on avait des autres?
Alors moi, je ne voulais pas dire tout à fait la même chose qu'Antoine. C'est que de là, c'est le côté pharmacien et c'est le côté observance des traitements. C'est-à-dire que l'oméprazole, pour patients qui avalent très bien, c'est parfait, c'est moins cher, on le garde. Pour le patient qui a du mal à avaler son comprimé, qui ne le prendra pas bien, L'avantage de l'Inexium, c'est qu'on peut mettre à fondre dans un verre d'eau et que le patient peut boire le médicament et donc on peut le prendre facilement. Donc il faut penser à la personne âgée, 80 ans, qui en a réellement besoin et donc ça apporte ce côté-là. Donc il faut simplement un médicament, c'est à la carte et c'est fonction du patient. Il y a des patients pour lesquels l'Inexium sera utile, pour d'autres nettement moins. Et là, si c'est un côté que marketing, ça n'a aucun intérêt.
Je suis totalement d'accord, mais... La question, elle allait un petit peu plus loin. Effectivement, si c'est qu'une histoire de galénique, quelque part, c'est ça. Parce que ce qu'on oublie, peut-être que tout le monde n'est pas au courant, mais l'oméprazole, 50% de l'oméprazole, c'est de l'ésoméprazole. Hein. C'est un mélange, c'est un problème d'énantiomère. Le problème, c'est si on regarde le mécanisme, on se rend compte que le principe actif, c'est exactement le même. Donc on fait un produit plus coûteux industriellement parce qu'il y a un carbone... c'est un soufre qui est asymétrique. Donc c'est du marketing. Je crois qu'on peut pas...
Je crois qu'il faut faire confiance un peu aux médecins et aux pharmaciens. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie faite par le laboratoire qui voit arriver un générique et qui développe un médicament très proche pour garder le marché. Mais c'est aux médecins et aux pharmaciens de dire mais non, il apporte pas grand-chose, sauf pour certains patients. Donc, pour les patients où ça apporte pas grand-chose, on garde l'ancien.
Alors, moi, je
n'aurais jamais dû avoir l'AMM.
Voilà, c'est ce que je vais dire. Je crois que le problème est avant.
Il y aura, c'est pas possible.
Si vous permettez,
voilà. Chevalier qui veut prendre la parole depuis...
pour parler du marketing de l'industrie pharmaceutique, c'est vrai. Je voudrais vous rappeler une histoire. Et mon objectif, c'est de dire que tout le monde est concerné. On est dans un forum citoyen. Il faut donner à tous les citoyens les moyens de savoir où ils vont. Dans ce domaine-là, le marketing, je rappellerai une histoire qui m'a frappé parce que j'étais de l'autre côté de la barrière. Et à l'époque, il y avait un médicament qui s'appelait l'isoméride. On nous a expliqué que c'était un médicament formidable. Bon, je ne citerai pas le laboratoire, on a trop cassé de sucre sur son dos. Donc, c'était un médicament formidable parce que c'était la molécule qui déviait la lumière à droite, etc., l'isomère qui déviait la lumière à droite. Il y avait les deux isomères dans le pondéral. Et c'était un anorexigène, une amphétamine, un dérivé amphétaminique. Le marketing a fait gober à tous les prescripteurs qui ont été nombreux à le prescrire à l'époque qu'il n'y avait plus les effets secondaires des dérivés amphétaminiques, que c'était un médicament extraordinaire. Il n'y avait plus aucun effet secondaire du pondéral retard, etc. C'était la dexfenfluramine. Et puis, on a eu des œdèmes aigus du poumon, on a eu des accidents. Et là, ça coïncidait avec la montée de la pharmacovigilance. C'est pour ça que je reviens à ça. Il est important que chacun se sente concerné par ces déclarations d'effets indésirables et par la pharmacovigilance. Et puis, le médicament a été retiré du marché. Et on a mis sur le marché un métabolite, ça va vous dire quelque chose, le Benfluorex. Et ça s'appelle le Mediator. Voilà. Et tout ça, effectivement, le marketing a permis cette chose-là.
Monsieur. Oui, la plupart des questions que je voulais poser se sont posées entre-temps. Je crois quand même qu'il y a un gros problème qui est soulevé 4 ou 5 fois. C'est celui de la formation. Alors, attention, pas de n'importe qui. Des médecins, des juges et de tous les citoyens. C'est un problème énorme. C'est-à-dire qu'on peut raconter des histoires invraisemblables, médiatiquement bien amenées, bien emballées, et faire n'importe quoi. Alors, ça, c'est une première idée. Et je crois qu'il y a moyen de former les gens, mais ça se prend 5 minutes. Bon, la deuxième idée, c'est le bricolage des molécules. On en a parlé ici. C'est-à-dire qu'il y a quand même trop de moyens de tromper l'évaluateur sur la nature nouvelle de la molécule qu'on essaie de vendre, la nouvelle molécule, pour pérenniser le droit après-bande. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a un manque de vigilance. Et pour conclure ma propre questionnement, je voudrais franchement faire un compliment. Je me dis, ce genre de débat qu'on a aujourd'hui, qui est un débat pondéré, modéré, réaliste. Les gens qui parlent savent de quoi ils parlent. Hein. Il serait compréhensible de beaucoup de gens il faudrait l'obtenir au niveau national beaucoup plus souvent, plutôt que les grandes fêtes médiatiques.
Merci pour votre intervention. Je voulais, avant que vous le disiez vous-même, je voulais dire, écoutez, effectivement, ce type de réunion, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Et je dirais que, personnellement, il y a eu beaucoup d'investissements de l'ensemble du personnel de Mendes France, de tous les collègues qui sont venus. Et globalement, il y a relativement peu de monde. Je trouve ça dommage, mais je trouve ça aussi, alors, excusez-moi, je suis un peu du côté de la barrière, mais d'excellente qualité, ce que j'ai pu dire à mes collègues, que je remercie encore en ce sens. Et je trouve ça très bien. Donc, bon, première réponse à votre question, malheureusement. Deuxième réponse, au niveau de la formation. Vous savez, ça a été évoqué ce matin aussi. On travaille chacun, on a des domaines, une molécule qu'on va très bien connaître, sur laquelle on peut travailler depuis 10 ans, eh bien, on a toujours beaucoup d'interrogations. Donc, c'est très difficile. Ça ne se fait pas facilement, la formation. On a, et bon, à tous les niveaux, que ce soit prescription, recherche, etc., on n'a pas d'avis tranché. Il est très difficile d'avoir des avis tranchés, de pouvoir... Et donc, on met sur la table, on en débat, et après, ça a été évoqué aussi ce matin, il y a un problème de confiance. Là aussi, bon, il y a parfois, ça a été évoqué, il peut y avoir de la fraude, mais vous savez, le mot a été lâché ce matin, ça peut exister dans le privé, ça peut exister dans le public aussi, parce que c'est formidable, on fait des choses formidables, on a notre promotion, etc. Oui, donc, mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et je crois qu'il y a un problème de confiance aussi à prendre en compte. Mais effectivement, c'est une bonne question que vous posez. Si d'autres collègues veulent intervenir à ce sujet.
Je voulais juste rajouter, quand vous disiez pourquoi certains médicaments arrivent sur le marché, maintenant on a beaucoup de systèmes avec des AMM européennes, donc un médicament a son AMM dans un pays d'Europe, quel qu'il soit, et pratiquement automatiquement il arrive en France et on ne peut pas lui dire en France, ben nous on n'en veut pas. Moi j'ai été longtemps à la commission d'AMM et c'est vrai que ça change un peu la donne. Il y a peut-être certains médicaments effectivement qui, s'ils avaient été, on avait déposé une AMM en France, ne seraient peut-être pas arrivés chez nous. Pas parce qu'ils sont plutôt peu toxiques, mais parce qu'ils sont peu efficaces ou qu'ils apportent pas grand-chose par rapport à d'autres, avec un prix souvent plus élevé.
Pour la formation, c'est-à-dire que c'est, l'avis du public, c'est qu'il y a des gens qui savent tout et d'autres qui savent rien. La vérité n'est pas celle-là. Les connaissances pour les médicaments, pour tout dans le domaine médical, sont évolutives de façon permanente. Et même quand vous êtes un spécialiste ou un hyperspécialiste du sujet, vous avez du mal quelquefois à suivre l'actualité scientifique. Donc c'est pour ça que celui qui disait tout à l'heure ma critique du livre était celle-là, tout à l'heure les 40 000, moi déjà avec quelques molécules j'ai du mal, j'y arrive à peu près parce qu'il n'y a pas tant que ça, mais dans d'autres disciplines on comprend bien la difficulté à suivre de façon permanente. Donc les données sont évolutives et il ne suffit de pas grand chose pour remettre en cause tout le système. Donc quand vous faites de la formation, le plus important c'est pas d'apprendre la notion, c'est d'apprendre à réfléchir. Et ça, c'est un peu plus difficile que quelqu'un a parlé des années d'études tout à l'heure. Ce n'est pas les années d'études. On voit très bien qu'il y a des gens brillants, ils ont fait très peu d'études, et d'autres, ils ont fait des longues études, et ça ne change rien. L'essentiel, il est là. Et le bon sens, quand les oméprazoles, c'est une question de bon sens, je me rappelle très bien cette histoire, je n'ai pas compris. Mais je n'ai jamais entendu d'autres que moi le dire. Ça ne choquait personne, parce que c'est un système, ça dure comme ça, et c'est un système qui s'auto-entretient, où tout le monde est content, on l'espère, etc. On demande son avis sur tout, il le donne sur tout. Il a tort, parce qu'il y a des moments où il n'est pas compétent. Et ce n'est pas parce qu'il a le titre d'espère, on voit très bien. C'était mon commentaire tout à l'heure, comment j'étais dans le... Comment j'ai qualifié tout à l'heure, peu importe, au tribunal, j'ai dit. Voilà. Donc manifestement, il y avait des gens qui donnaient un avis, qui n'étaient pas forcément très compétents dans le cas particulier pour donner un avis. Mais c'était eux, ils étaient représentants d'eux, voilà. Et le système, il marche aussi comme ça, et ça explique quelquefois que de temps en temps, il y a des couacs, voilà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas des experts pour tout le temps. Il y a des gens, il y a des secteurs où on ne sait pas du tout, où on a un avis différent. L'AMM, par exemple, tout à l'heure, l'histoire de l'AMM, c'est stupide. Il y a des produits, il y a l'AMM en Europe, aux États-Unis, il n'y a pas en France. Voilà, bon, je peux vous en citer un, ça nous pose des tonnes de problèmes administratifs. C'est, bon, on a du mal à comprendre pourquoi, mais il y a des bonnes raisons. Bonne raison, c'est le système de remboursement qui fait la différence. Voilà, ça coûterait trop cher. On estime que c'est une façon de réguler, parce qu'il y a une régulation qui se fait malgré tout et qui est quelquefois qui est un peu maladroite. Voilà. Mais c'est assez compliqué. Il n'y a pas de solution parfaite.
Monsieur, oui.
Oui, Jean-François Vergniaud, donc citoyen et profane de la question du médicament, comme vous l'avez compris ce matin. Le thème donc de la table ronde, médicament entre défiance et espoir. Je retiendrai ces deux mots. D'abord, je crois qu'il y a des raisons d'espérer dans tout ce qui a été dit tout à l'heure. Et je remercie notamment le docteur Beau sur le top 10 des médicaments remboursés. Je crois que c'était très intéressant. Et c'est là où je rejoins la réflexion de ma collègue par le vieil adage « mieux vaut prévenir que guérir ». Et je crois que là, il y a inévitablement des économies qui peuvent être faites et sans mettre en accusation ni les médecins, ni les pharmaciens, ni les industriels, ni tout ce qui nous entoure, mais d'abord nous-mêmes, nous les citoyens. Je pense qu'en matière de diabète, cholestérol, obésité, si j'ai bien compris, il y a des efforts qui peuvent être faits assez facilement sur les modes de vie, sur les comportements, si on le veut, si on le veut. Et c'est aussi là, donc, dans ce message d'espoir, je me tourne vers Mendès France et n'hésitons pas à nous réunir sur tout ce qui touche aux atteintes à la santé. Je dirais. C'est des choses très, très simples de la vie quotidienne. Ça, c'était le message d'espoir. Ensuite, plutôt là, une question sur la défiance, dans le mot défiance. Je voudrais savoir de la part des médecins, notamment tout autre professionnel expert en la matière, que pense-t-il de ce que l'on appelle la médecine prédictive, où là aussi à Mendès, il y a 2 ou 3 ans, ces questions ont été abordées ou sinon effleurées, médecine prédictive où l'industrie pharmaceutique est en train de chercher de nouveaux médicaments, je suppose, pour donner satisfaction à des malades potentiels, des gens comme vous et moi, qui ont fait cette démarche, et c'est par Internet, je rejoins l'exposé Internet, et qui se présentent devant leur médecin, « Docteur, je risque d'être atteint en disant telle maladie, faites quelque chose pour moi. » Donc voilà ma question, qu'en pensez-vous aujourd'hui ?
Donc, je ne voudrais pas monopoliser le micro. Alors, la première chose, vis-à-vis du médicament, défiance vis-à-vis du médicament, quand on voit un malade qui a une maladie, à qui on a prescrit un médicament, qui a des symptômes, la première chose, le premier qui est accusé, ce n'est pas la maladie, c'est le médicament. La défiance, elle existe tout le temps. Alors, je rappelle, quand il y a la liste des effets secondaires, on appelle ça, nous, des événements indésirables, parce qu'on n'est pas absolument sûr qu'ils soient liés au médicament dans les études. Bon. Mais pour le malade, tout est un effet secondaire. Et ce n'est pas si simple à gérer que ça, il faut leur expliquer. Et j'explique d'ailleurs, quand on prescrit, il y a des moments, ce n'est pas le bon moment de prescrire. Il a les symptômes qui pourraient correspondre aux effets secondaires potentiels, ça va devenir ingérable. Bon. Ceci étant dit, et il y a deuxième chose, c'est que quand vous incriminez le médicament, si vous avez un effet, entre guillemets, indésirable, grave, un événement indésirable grave, c'est le cas du vaccin dont je dis un mot ce matin, vous avez une possibilité de réparation financière. Ça change tout. Alors après, la médecine prédictive, on en fait déjà quand on parle de l'hypertension, quand on parle du diabète, quand on parle du cholestérol, on fait de la médecine prédictive, c'est-à-dire ce sont des facteurs de risque. Par exemple, pour le cholestérol, vous êtes malade de rien du tout, mais on prédit que vous allez faire des complications vasculaires liées à ces facteurs de risque. Et c'est une stratégie qui, semble-t-il, est efficace, entre guillemets, en sachant qu'on remet, on remet de façon constant nos connaissances en cause, parce qu'on n'a pas tout intégré dans le modèle initial. Bon. Alors, médecine prédictive, c'est un marché. Ce qui intéresse l'industrie, ce qui intéresse beaucoup de gens, c'est un marché. La médecine prédictive, au sens où vous l'entendez, c'est tout le monde, y compris le petit bébé à qui vous allez prescrire un comportement, des médicaments, etc. Et là, il y a un marché considérable. Alors, moi, je suis un peu inquiet. J'aimerais pas savoir de quoi je vais mourir. Vous voyez ? Déjà, c'est quand on voit les gens, quand ils ont déjà une maladie, comment c'est traumatisant. Quelquefois, les miens, ils en ont 2, 3, 4, quelquefois plus. Ce n'est pas si simple à gérer que ça. Et que le principe étant, c'est comme le conseil génétique, de ne diagnostiquer que les maladies sur lesquelles on a une éventuelle prise. Et bien, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Vous voyez, donc les conseils d'hygiène de vie, là, OK, il n'y a pas de problème, on peut les donner à tout le monde. Mais les maladies pour lesquelles vous êtes à risque, vous avez une maladie d'Alzheimer, par exemple, comment on va faire ? Faire travailler sa mémoire, peut-être. Oui. Ça génère tellement. Vous gâchez, il faut bien le savoir, une partie de la qualité de votre vie par la connaissance de la maladie que vous allez avoir demain. Après, c'est un point de vue qui est personnel. Je répète, je n'ai aucune légitimité. Si ce n'est une vieille expérience.
En sachant que ce n'est pas si simple que ça. Parce que non. C'est vrai, aujourd'hui, c'est des choses que l'on peut faire. vous allez faire, on est tous différents dans la salle. Pourquoi ? Parce qu'on a des polymorphismes au niveau de notre génome. Okay ? Bon, on va faire cette analyse. On va avoir des données brutes. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Vous allez intégrer 30 000 informations pour des maladies monogéniques. Il y a certaines choses où c'est relativement clair. Pour le reste, tout est interconnecté. Et je crois que ça évolue. Il y a une question ce matin à propos de la physique, de traitement de données, etc. On est dans ce monde aujourd'hui, mais on est loin d'avoir une vision intégrée de la chose. Là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire en ce sens. Et au niveau du médicament, il y a des choses qui se font maintenant. On sait qu'il y a certaines molécules qui vont agir sur un récepteur donné avec un polymorphisme donné. Donc, on sait aujourd'hui qu'on peut étudier ce polymorphisme des gènes pour éventuellement savoir que telle molécule va agir. Mais bon, c'est des choses qui avancent. Il y a quelques exemples. Mais c'est peut-être la médecine et les traitements de demain, mais il y a encore beaucoup de travail, on va dire. Voilà. Et je crois que le risque, c'est d'être aussi très réductionniste. Vous allez le faire, vous l'envoyez aux États-Unis, ce qui coûtait prenez des années, des millions d'euros, il y a quelques années. Vous savez, on a vécu au niveau de la biologie moléculaire ce qui a été vécu pour l'électronique il y a 30 ans, du transistor. Voilà, on est en plein dedans actuellement. On n'a pas encore digéré tout ça. Voilà, c'est... Et je voulais faire un petit commentaire aussi. Vous parliez de Mendès France, le travail de Mendès France, c'est extrêmement bien. Je suis absolument d'accord. Je crois que les communications qui ont été faites aujourd'hui vont être sur le site. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre celle de M. Chevalier sur le site. Parce que finalement, M. Chevalier nous a dit, voilà, on peut faire sur Internet, vendre des faux médicaments. Finalement... Il y a moins d'exposition pénale. On a compris que la rentabilité était excellente. Et je crains... Évidemment, on est tous honnêtes ici. Il n'y a pas de problème. Mais si ça allait entre toutes les mains et toutes les oreilles, ça pourrait être quand même quelque peu dangereux et susciter des vocations. Voilà. Donc, vous n'en parlez pas trop quand même.
J'y ai pensé, effectivement.
Voilà.
Pardon, c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais on ne va pas faire un débat là aujourd'hui. C'est sur la surmédication et la surconsommation de médicaments des personnes âgées. Est-ce que ça s'avère exact ou c'est des oui-dire ?
Il y a eu pas mal d'études qui montrent qu'une personne âgée a environ entre 6 et 7 médicaments en moyenne. On sait que ça peut... Ah non, là, on est en moyenne. On sait qu'on peut monter jusqu'à 14, 15. On a même trouvé un patient avec 30 prises par jour. Donc, à la limite, il est totalement nourri par ses médicaments et pas du tout par son alimentation. Y a un travail énorme qui est actuellement fait, aussi bien au niveau des médecins, des EHPAD, des patients aussi. Parce que, comme je disais tout à l'heure, certains patients, plus ils ont de médicaments, mieux ils ont l'impression d'être. Et ils ont l'impression que si on en arrête un, ben, ça ira beaucoup moins bien. Donc on travaille beaucoup sur cette réduction, c'est la réévaluation du traitement. C'est vrai que souvent, même on profite de l'hospitalisation pour réévaluer les traitements et arrêter quelque chose. Et puis le travail aussi important, c'est l'observance, parce que dans les personnes âgées, elles prennent tellement de médicaments qu'elles ne peuvent pas bien les prendre. Et en plus, il y a des médicaments qui sont écrasés. Il se passe pas mal de catastrophes avant qu'ils arrivent au patient lui-même. Et donc, si on veut, il faut mieux un traitement avec peu de médicaments et bien pris que beaucoup de choses qui sont très mal prises. Donc, l'information, elle touche tout le monde, et les patients en particulier, les soignants aussi, les aidants aussi. On essaie aussi de toucher les familles, parce qu'une famille, elle aussi, parfois, est très demandeuse de médicaments pour un conjoint ou un parent, de façon à dire oui, mais donnez-lui encore des médicaments. Donc là, il y a beaucoup d'informations qui sont faites auprès de tout le monde pour essayer d'éviter cette surconsommation.
Non, mais bon. Alors, si je peux faire un commentaire. Je pense que tout à l'heure, dans l'exposé là, sur le pourquoi prescrire, c'est une démarche. Vous voyez un malade, il vient vous voir, vous êtes médecin généraliste. Il vous pose une question, vous faites une ordonnance, ça dure 3 minutes. Bah, si vous voulez expliquer, etc., il y a aussi cet aspect-là qui est loin d'être négligeable. Aussi, le fait qu'il y a un morcellement actuellement de la médecine par une surspécialisation de tout le monde. Vous voyez 10 spécialistes, vous avez 10 médicaments, et personne ne se pose la question de savoir comment s'organise l'ensemble. Alors, pour ce qui est d'arrêter les médicaments chez sujet âgé à l'hôpital, j'ai une grande expérience. On arrête à peu près tout facilement. Mais si vous les voyez revenir 15 jours après, ils ont repris les médicaments qu'ils prenaient pour des tonnes de raisons. Et où tout le monde est complice, le malade, ici. Donc, il y a un certain nombre de médicaments totalement inutiles ou peu utiles. Et qu'effectivement, ça fait des cocktails extrêmement détonnants. Mais il y a une culture en France du médicament qui est extraordinairement développée et sur lequel c'est comme les c'est une toxicomanie. Voilà. Et une toxicomanie est remboursée.
Je crois qu'on vous donne un nouveau sujet d'intervention. Je pense que les médicaments chez la personne âgée serait un sujet très intéressant.
Je rajouterai un terme, par exemple, sur l'hypertension, le diabète, le cholestérol. Ça n'a pas de sens de donner des hypocholestérolémies à 90 ans. Mais le cardiologue, si vous êtes cardiologue, il va vous dire il a fait un infarctus, il faut à tout prix. Je pense qu'il a tort. Je pense tout seul. Et je suis sûr qu'il y a les effets secondaires. Le problème de l'hypertension, c'est tout le monde. On peut s'imaginer, est-ce qu'il n'y a pas quelques conséquences négatives, les chutes, etc. On voit très, très bien. Donc, je ne vous ai pas expliqué ça, mais quand j'étais, il y a 30 ans, on disait que la moyenne, la borne de la tension, c'était 16. Aujourd'hui, c'est 13. Et si vous êtes diabétique, c'est 12. Où est-ce qu'on va descendre? Et puis, les gens, vous êtes à 11, vous êtes dit, oh, je suis en hypotension. Ça devient de plus en plus dur à gérer. Voilà. Et donc, c'est une façon de créer un marché considérable. Donc, si vous mettez 10, le diabète, c'est 1,26 g. On s'est posé la question à jeun. On s'est posé la question de la mettre à 1,13. Il n'y aura plus 6 millions de diabétiques. Il y en aura 8, puis 10, puis 20. Donc, vous avez un marché considérable. Donc, vous avez donné la solution. Marché, courez.
OK. OK. Mais écoutez, je pense que... Oh, pardon, une question
sur la détermination un peu du prix des médicaments. On a entendu à plusieurs reprises que ça avait tendance à augmenter. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des précisions sur finalement comment sont déterminés un peu ces prix? Et puis est-ce que c'est pas, quand on regarde l'industrie pharmaceutique, ça c'est quand même beaucoup concentré, est-ce que c'est pas un peu biaisé, on va dire, par le fait qu'il y ait moins d'acteurs en face et que finalement...
Alors certainement on va pouvoir se compléter. Hein. De toute façon, moi pour ce que j'en connais, c'est que... Faut voir d'où on vient. Hein. Avant la création des agences en 1994, quand elles se sont mises en place, hein, avant, l'industriel allait au ministère négocier. Je dirais, j'exagère, mais c'était entre quatre yeux. Et puis on pouvait avoir des médicaments qui avaient les mêmes indications et dont les prix variaient du simple au double selon celui qui le fabriquait. Je schématise un peu, mais... on va vers une plus grande transparence dans la mesure où maintenant, pour déterminer le prix d'un médicament, il y a des étapes avec plein d'intervenants. Il y a la commission de transparence, il y a les évaluations à l'agence du médicament, il y a le comité économique des produits de santé où interviennent là encore plein de gens. Et en plus, maintenant, c'est public et c'est filmé pour la plupart des débats, c'est accessible donc sur le site de ces agences. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a des lettres... des lettres de cadrage qui sont données au comité économique des produits de santé et qui vont donner des directions. Mais enfin, après, dans le détail, je ne saurais pas vous expliquer comment est déterminé tel prix.
Je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin. En fait, il y a une note qui est donnée aux médicaments qui s'appelle l'ASMR. Donc, c'est l'amélioration de service médical rendu. Et donc, le médicament, il est noté entre 1 et 5. Donc 1, alors on n'en a pratiquement plus en France depuis quelques années, c'est une fois par an ou une fois tous les deux ans, c'est vraiment le médicament qui révolutionne une pathologie, qui est le premier médicament qui permet de traiter quelque chose. Voilà. Ensuite 2, c'est déjà une amélioration extrêmement importante encore dans la prise en charge d'une pathologie. Et puis tranquillement on redescend 3, 4, 5. Et en fonction de la note qui a été accordée à ce médicament, la négociation de prix est complètement différente. On parlait de l'Inexium tout à l'heure. L'Inexium, ça serait une ASMR 5, c'est-à-dire de dire, bon, il apporte un petit quelque chose en galénique, mais pas grand-chose sur l'efficacité. Donc, on veut bien vous autoriser à le commercialiser, parce que c'est un médicament efficace, pas particulièrement dangereux. En revanche, commercialisez-le, mais avec un prix très bas et bien inférieur aux autres. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, le laboratoire qui arrive avec un médicament ASMR 2, c'est certain qu'il aura un prix élevé, puisque là, il sera en force pour négocier le prix. Et plus sa note devient moins bonne, est vers 5, là, le prix est en baisse. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est assez organisé quand même. Bon, et je pense pas... Il y a quelques critères autres qui intervenaient à une époque. Je pense qu'il n'intervient plus, donc c'est assez organisé.
Je Le seul commentaire que je ferai, c'est qu'il y a une régulation. Les produits coûteux dont je vous ai dit, les prix diminuent régulièrement. C'est l'offre et la demande aussi, parce que plus on en vend, plus ça doit coûter moins cher, entre guillemets. Donc les prix sont négociés, renégociés. Voilà, il y a quand même, Dieu merci qu'il y a une régulation. Sinon, le prix qu'ils ont obtenu, qui est 1 000 euros, voilà, s'ils en vendent 1 million, on va négocier le prix en fonction du marché. Voilà. Et après, je ne sais pas, la justification, la question que je posais, c'est est-ce que le prix de départ, il est justifié? C'est très difficile de le mesurer pour les gens qui sont dans les commissions qui viennent d'être citées, hein, parce que ce n'est pas facile, il faut croire sur parole. Mais ils ont employé quelquefois des milliers de personnes, ils ont inclus donc des procédures qui sont extrêmement longues et clairement coûteuses, hein, qu'on leur impose. Voilà. Et il y a un lobbying, oui, bien sûr. Et plus vous êtes riche, plus vous faites du lobbying. Hein. Ce qui expliquait que certains laboratoires obtenaient des prix meilleurs que le petit laboratoire français. Voilà.
Ok, ben écoutez, merci à tous pour votre présence. Merci aux intervenants et à ces superbes interventions. Et puis, rendez-vous à 19h pour la conférence de Jean-Claude Dupont, une histoire des théories du remède. Au revoir.